J'ai annulé une partie de chasse. J'ai fait ça comme service au Seigneur. Alors c'est, nous sommes heureux d'être ici. La dernière fois que j'étais ici, je crois que je vous ai dit, chaque fois que nous revenons, il manque quelqu'un. Et si nous revenons l'an prochain, que le Seigneur tarde, il manquera quelqu'un. Il y a une personne qui m'était très très proche, de cœur et d'esprit. C'était frère Lyle. J'ai toujours reçu bon accueil. Quand j'arrivais et que, dans le bureau de frère Jack, j'écoutais chanter le vieux quatuor. Il chante dans la gloire ce soir. En fait, l'une de ses voix est déjà là-bas, à attendre les trois autres. Probablement que je ne l'entendrai plus jamais ici sur cette terre. Par contre, combien je me réjouis, frères et sœurs morts, à la pensée de l'entendre de nouveau dans ce pays où elle ne s'éteindra plus jamais. Frère Palmer était un grand serviteur de Christ. Je me souviens, frère Jack me parlait de sa vie consacrée à Dieu. Ils travaillaient ensemble, ils étaient menuisiers. Et il me disait que pendant qu'il prenait son repas de midi, il avait son sandwich à la main. Il mangeait un sandwich tout en lisant sa Bible. Voyez, frère Palmer a fait de grandes choses, vraiment. C'était un bon menuisier, un bon père pour ses enfants, une famille charmante. Il les a tous élevés pour qu'ils servent le Seigneur. Pour autant que je sache, ils sont tous sauvés et remplis du Saint-Esprit. Et ça, de nos jours, c'est une grande contribution de la part de n'importe quel homme, des garçons et des filles. Mais vous voyez, tout ce qu'il a fait n'aurait pas donné grand-chose au bout du compte, à moins d'avoir servi Dieu s'il n'avait pas servi Dieu. Et ce soir, ce qu'il a accompli ici sur terre, ses bonnes actions, il est parti vers sa récompense. Elles l'ont précédé là-bas. Que Dieu ait l'âme de notre frère. Je sais que tant que ce lieu sera un tabernacle, je sais que sa voix sera toujours ici. Vous pourrez l'entendre. Sœur Anna Jeanne et sa sœur, à l'orgue et au piano, elles n'avaient jamais à attendre. Frère Palmer se tenait debout ici, il entonnait tout de suite le cantique et continuait comme ça. Elle le rattrapait. Jamais je me réjouissais à la pensée de l'entendre diriger les chants. À ses enfants, à sa femme, à frère Jack, son ami intime, eux qui ont été amis pendant tant d'années, et à frère Brown, sœur Brown, et vous tous de ce tabernacle, je dirais ceci, que Dieu vous bénisse. Il me manque, à moi aussi, que Dieu ait son âme valeureuse, jusqu'à ce que nous le rencontrions en paix. Inclinons la tête. Bienveillant Père Céleste, ce grand serviteur dont nous parlons, j'ai regretté son absence ce soir. Il me serrait la main avec ce petit sourire qu'il avait toujours quand il disait « Que Dieu vous bénisse, frère Branham !» au moment où nous passions la porte. Je sais qu'il est monté à ta maison ce soir. Ainsi, je te prie, Dieu bien-aimé, de permettre que les fruits, que ses œuvres qui le suivent soient glorieuses, qu'elles se poursuivent à travers ses enfants et sa femme. Nous te prions de la bénir, Seigneur. Tu as dit que tu serais un mari pour les veuves qui sont véritablement veuves. Je prie pour notre sœur Palmer et pour tous les enfants. Je peux compatir à leur douleur. Dans les deux cas, puisque j'ai perdu les deux, une compagne et aussi mon père. Alors, Père, pendant que nous sommes ici ce soir, nous te prions de préparer aussi nos cœurs pour cette heure-là. Nous ne savons pas, cette heure pourrait venir aussi soudainement pour nous qu'elle est venue pour lui. Nous ne savons pas quand elle viendra, mais nous savons qu'elle doit venir. Alors, nous te prions, ô Dieu, de sonder tous les cœurs ici ce soir. Ô Dieu, ne laisse pas le mien de côté. Sonde le mien aussi et éprouve-moi. Seigneur, s'il y a quelque chose de mauvais en nous, ôte-le. Nous voulons te servir. C'est notre seul objectif, te servir. Répands ton esprit sur nous ce soir et pendant le reste de la semaine. Bénis ce tabernacle qui porte le nom de tabernacle de la vie. Qu'il reçoive toutes les bénédictions de ce nom, qu'il soit rempli de la vie de Dieu cette semaine, afin que chaque âme perdue soit sauvée, que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit. Et que les espoirs qui sont en nous soient renouvelés, Seigneur. Nous te prions aussi de guérir tous les malades et tous les affligés qui viendront au milieu de nous. Que ton grand Saint-Esprit soit ici, Seigneur, et qu'il guérisse et qu'il oigne chacun d'eux afin qu'ils croient. Accorde ces choses, Père. Ô Dieu, aide-moi maintenant. S'il m'appartient, si c'est maintenant à moi d'apporter le message, je te prie, ô Dieu, d'écarter ce qui est de l'homme. Que le Saint-Esprit vienne agir sur nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne la réunion en main, Seigneur. Nous savons que nous sommes incapables. Nous ne pourrions pas y arriver par nous-mêmes. Aucun de nous ne le pourrait. Nous ne prétendons pas pouvoir y arriver. Mais, Seigneur, nous savons que c'est toi. C'est pourquoi nous comptons sur toi, Seigneur. Agis, Esprit de Dieu, et descends tout à nouveau sur nous. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je voudrais saluer toutes les églises qui sont reliées à nous en ce moment, de différents États. Nous sommes reliés par le téléphone. C'est un système ingénieux que nous avons pu obtenir grâce à notre frère Perry Green de Beaumont au Texas. Alors, toutes les églises qui suivent le message d'un bout à l'autre des États-Unis sont reliées à nous ce soir. Nous envoyons nos salutations partout sur la côte ouest, de Vancouver jusqu'à Tijuana au Mexique, en passant par San José et Los Angeles. Tous les groupes qui sont là-bas, nous vous saluons de Shreveport. Et aussi jusqu'à Prescott, en Arizona, au groupe qui est là-bas, qui attend le Seigneur, nous vous envoyons nos salutations, de même qu'à Tucson, et aussi à Sierra Vista, jusqu'à New York, du nord au sud du pays, que le Seigneur vous bénisse chacun. J'aimerais que vous soyez ici ce soir, dans ce bel état de la Louisiane, que je considère comme mon second chez moi. Vous savez, vous, les gens de New York, on plaisante parfois un peu sur votre manière de parler. Ce soir, je suis vraiment chez moi. Oui, ici, vous savez, tout le monde dit « Eh, bonjour, frère Branham !»« Venez donc avec sœur Branham et tous les marmots, venez nous voir !» Oh là là, ça me réjouit, ça. Pour moi, c'est du véritable anglais. Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers vous, les gens de l'Est, du Nord et de différents endroits. Mais vous savez, je pense que je suis né comme ça, un bon vieux sudiste, et que je vais devoir le rester. Personnellement, j'aime bien. C'est du véritable anglais. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un petit déjeuner des hommes d'affaires, et ils ont dit, « Nous allons maintenant nous lever et chanter l'hymne national. » Je me suis levé et j'ai dit, « Pour ma vieille patrie du Kentucky, tout là-bas. » Que voulez-vous? Pour moi, c'était ça l'hymne national. C'est tout ce que je connaissais là-dessus. Donc, nous vous envoyons nos salutations. Maintenant pour... Je crois qu'ils vont essayer de diffuser le petit déjeuner aussi. Le petit déjeuner des hommes d'affaires, samedi matin. Frère Green vous en parlera. Il est là-bas, près des microphones en ce moment. Donc, il vous dira à quelle heure le petit déjeuner commencera et à quelle heure, chaque soir, vous pourrez vous mettre à l'écoute. Nous vous remercions beaucoup. Priez pour nous. Maintenant, à l'assemblée locale ici et au tabernacle de frère Jack, j'aimerais juste vous demander une faveur ce soir. Étant donné que je me proposais de transmettre mon message d'action de grâce d'un bout à l'autre du pays ce soir à nos églises locales qui suivent le message. Ainsi, il se peut que je sois un peu long, et il se peut aussi que je prêche des points de doctrine. Alors, si c'était le cas, et que vous ne soyez pas d'accord sur ces choses, comme je l'ai toujours dit au sujet de la tarte aux cerises, quand mes dents s'arrêtent sur un noyau, je ne jette pas la tarte, je jette simplement le noyau, et je continue à manger de la tarte. Alors, si jamais je disais quelque chose ce soir, Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté l'invitation ce soir de venir apporter, à partir d'ici, mon message d'action de grâce aux groupes qui sont un peu partout dans le pays. C'est parce que frère Jack m'a toujours ouvert ses portes toutes grandes en me disant « Prêche ce que tu as à cœur ». Alors, je me sens vraiment à l'aise. Donc, il est possible qu'ici, dans l'assemblée locale, avec frère Jack, il se peut qu'il y ait des ministres et des gens qui ne soient pas d'accord sur la doctrine. D'habitude, j'ai la courtoisie de ne pas aborder des points de doctrine derrière la chair d'un homme qui m'a invité à venir prêcher à son église. Donc, après ce soir, je pense que je devrais me contenter de prier pour les malades et procéder comme d'habitude dans les services. Mais j'ai jugé bon de vous prévenir. Si je disais quelque chose et que vous ne soyez pas d'accord, eh bien, vous n'aurez qu'à mettre ça sur le compte de mon ignorance, je suppose, et de mon manque de connaissances, et priez pour moi. Alors, maintenant, prenons un chapitre ici, dans la parole. Il y a beaucoup d'endroits auxquels j'aimerais me référer ce soir, parce que j'ai inscrit plusieurs passages de l'Écriture et plusieurs petites notes ici sur un calepin. Je me souviens de la première fois que je suis monté sur l'estrade du Life Tabernacle, il y a 20 ans. Je n'avais pas eu besoin de noter mes passages de l'Écriture ni mes références. C'est que j'avais 20 ans de moins à l'époque. Mais maintenant, j'ai dépassé 25 ans, alors pour la deuxième fois. Alors je n'ai plus la mémoire que j'avais. Je suis obligé de noter mes passages de l'Écriture et parfois d'inscrire quelques points auxquels je désire me référer. Maintenant, que le Seigneur ajoute sa bénédiction alors que nous lirons dans la parole de Dieu, l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Je veux enseigner ceci un peu comme une leçon d'école du dimanche. Je sais qu'il y a des gens debout. C'est comme ça d'habitude au tabernacle à Jeffersonville. Et nous voulons vous saluer, vous aussi, ce soir. Nous savons que vous êtes reliés avec nous là-bas au tabernacle. C'est comme si on était au tabernacle ce soir. Si vous étiez ici, vous verriez les gens serrés et debout le long des murs. Bon, j'imagine que c'est pareil pour vous là-bas, avec tous les gens des régions avoisinantes qui se sont rassemblés là-bas pour écouter le message. Maintenant, nous allons développer ceci comme une leçon d'école du dimanche. Et ceci ne s'adresse pas à quoi que ce soit, à aucune personne en particulier, ni quoi que ce soit, mais simplement à l'Église, au corps de Christ, que nous essayons de conduire à des pensées plus profondes et à des objectifs plus élevés, car nous croyons que la venue du Seigneur Jésus est proche. Nous le croyons. Et bien plus proche encore, elle est de 20 ans plus proche que la première fois que je suis venu à Shreveport. Oh, il s'est passé tellement de choses depuis. Or, nous nous attendons à la venue du Seigneur dans notre génération. Je n'attends pas de réveil dans notre génération. J'attends la venue du Seigneur dans notre génération. Maintenant, dans Romains 7, j'espère que vous avez tous ouvert votre Bible, là, partout dans le pays. Maintenant, nous voulons lire attentivement. Le message qui se trouve ici, on serait porté à croire qu'il traite du mariage et du divorce. Mais en réalité, ce n'est pas ça. À mon avis, c'est une prophétie qui s'applique à l'Église des derniers jours. Lisons. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous soyez unis ou que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, prions. Dieu bien-aimé, nous venons de lire ce que nous croyons être la parole sacrée de Dieu. Et c'est ce que nous croyons. Il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre de ceci, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et nous croyons que notre Seigneur nous a dit, dans Apocalypse chapitre 22, que quiconque en retranchera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Et nous voyons que de déformer cette parole, comme Satan qui l'a déformée pour la présenter à Ève, qui a amené celle-ci à douter d'une seule parole, c'est ce qui a précipité toute l'espèce humaine dans la chute, dans le chaos, une seule parole. Ensuite, nous voyons au milieu du livre que notre Seigneur et Sauveur est venu et qu'il nous a laissé cette citation à propos de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis l'avertissement solennel dans le dernier livre, l'Apocalypse de Jésus-Christ. Quiconque ajoutera une parole ou retranchera une parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Ô Dieu, sachant, voyant combien nous sommes fragiles, sachant que nous marchons sur les fils ténus de la vie, de cette vie mortelle, sans savoir à quelle heure nous serons appelés à rendre des comptes en haut. Ô Seigneur, que nous écartions tout ce qu'il y a dans notre cœur, tout ce qu'il y a dans notre pensée, et que nous nous tournions directement vers ta parole ce soir, en nous attendant à ce que toi, tu viennes l'interpréter par des oracles vivants. Accorde-le. Puisse ton esprit descendre sur nous et oindre la parole dans nos cœurs, afin que nous soyons, en repartant ce soir, des gens meilleurs qu'en ce moment, que nous ayons une connaissance plus approfondie de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, afin que nous comprenions le jour où nous vivons et ce que Dieu a prévu pour son peuple en cette heure. Cette grande époque sombre et cruciale où nous vivons actuellement. Ô Dieu, qu'il y ait de l'onction, non seulement sur celui qui parlera, mais aussi sur celui qui écoutera. Fais que nos cœurs à tous tremblent à ta parole, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Accorde ces choses, Père, car nous les demandons au nom de Jésus. Amen. J'aimerais intituler les quelques remarques que je me suis proposé de faire ici, ainsi que les passages de l'Écriture dont je voudrais me servir pour y faire suite, si le Seigneur le veut, pour ce message d'action de grâce. Ce sera l'invisible de l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ. Ça ne semble pas être un message d'action de grâce, bien que nous soyons reconnaissants de tout passage de l'Écriture, quel qu'il soit. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ce temps des derniers événements de l'histoire de ce monde. Je ne sais pas, mais si j'avais eu mon mot à dire avant la fondation du monde, que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant « Je veux que tu prêches. Maintenant, dans quel âge désires-tu aller sur terre pour prêcher ?» J'aurais choisi cet âge-ci, car je pense que c'est l'âge d'or. J'aurais certainement aimé être ici à l'époque de son passage sur terre, mais je pense quand même que maintenant, c'est une plus grande époque, parce que c'est l'époque où il viendra chercher ceux qu'il a rachetés, où la résurrection est proche, le moment où tous les rachetés apparaîtront. Quelle occasion glorieuse il nous est donnée de parler à un peuple qui se meurt. Une grande époque. Cela nous remplit d'enthousiasme. Et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Nous entrerons alors dans un jour nouveau, le grand millénium. Comme croyant, en effet, je crois à un millénium, au règne du millénium avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Le retour physique du Seigneur Jésus pour y prendre avec lui un peuple physique glorifié grâce à son sang purificateur. Paul, ici, dans notre passage de l'Écriture, donne une image de la loi et de la grâce. Il présente cela par une comparaison avec le mariage et le divorce. Ce passage est rarement pris comme sujet de prédication, parce que, jusqu'à un certain point, il traite en quelque sorte du mariage et du divorce. Mais il traite aussi d'une partie du mariage et du divorce qui est plus importante encore. En effet, Paul essaye d'établir ici que nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas plus être mariés en même temps au monde et à Christ, tout en restant dans la légalité et la légitimité qu'une femme ne peut, du vivant de son mari, vivre avec un autre mari. J'ai mes idées là-dessus, et je crois que ce que la Bible dit est la vérité. Bon, mais je crois, et je suis convaincu de cela, que l'un des grands mystères de la prophétie y est aussi dévoilé. Et j'espère que le Seigneur nous aidera ce soir à transmettre ceci à nos fidèles qui sont dans l'attente partout dans le pays. Il a été dit une fois, je l'ai lu, au moment où j'ai inscrit la note là-dessus, je n'arrivais pas à me rappeler dans quel livre au juste ça se trouve. Mais je suis sûr que c'est exact. C'est dans un des livres que j'ai lu sur M. Moody, Dwight Moody de Chicago. Il y a une grande église à Chicago qui est à l'écoute, elle aussi, ce soir. Après avoir lu Romains 7, M. Moody était sorti en courant dans la rue et il avait dit au premier homme qu'il avait rencontré, « Connaissez-vous la grâce ?» L'homme a répondu, « Grâce qui ?» M. Moody a dit, « La grâce de Dieu !» Donc, ça l'avait tellement électrisé de voir ce qu'il en était. La grâce qui nous avait dégagé de la loi et le rôle que remplissait la grâce. Eh bien, s'il y a quelque chose que je voudrais faire, c'est quand j'ai toujours dit aux gens que quand j'aurai franchi la frontière, que je serai de l'autre côté, j'aimerais me lever et chanter « Grâce étonnante, qu'il est doux le son qui a sauvé un misérable comme moi. Grâce, précieuse grâce. » Connaître plus de grâce, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et non par ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire, tout ce que nous faisons, ce n'est pas compté en notre faveur. C'est la grâce qui nous sauve. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose au sujet de cette femme appelée grâce, si vous me le permettez, je vais la situer aussi dans la Bible, où elle est appelée l'élu. Cette demoiselle grâce dont je vais parler. Vous savez, il est déclaré dans la Bible, il est dit à l'élu. Si vous remarquez, élu, ça vient du terme la dame qui a été élue. Une dame parmi toutes les autres dames a été élue, comme la Vierge l'a été, afin d'enfanter le corps de Dieu sur la terre. Elle était une femme qui avait été élue. Dieu avait choisi Marie. De même, Dieu a choisi une dame élue, qui est son épouse. Elle a été élue. J'espère bien que nous en sommes membres ce soir, partout dans le monde, ou plutôt, partout dans le pays. L'image présentée ici montre la relation de l'épouse avec Christ, la dame élue. Comment elle serait amenée à lui, d'où elle allait venir, et comment elle allait être amenée à lui. L'Église que nous voyons ici, dans la représentation que nous avons devant nous, est présentée comme une femme. Or, une femme, c'est toujours un type de l'Église, parce que l'Église est considérée comme une épouse. Une épouse, elle est l'épouse du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Toujours, si vous observez, en observant le comportement des femmes, et l'état dans lequel elle se trouve, vous verrez où en est l'Église. Bon, ces remarques, certaines d'entre elles peuvent paraître étranges à quelques-uns d'entre vous, mais elles font l'éloge du message que j'ai reçu du Seigneur, que j'essaie de transmettre aux gens. Observez tout ce qui se produit sur le plan naturel. Là, la nature, observez ces choses. elles aussi se déroulent en conformité exacte avec celles qui se produisent sur le plan spirituel. Or, en voyant le comportement des femmes dans le monde d'aujourd'hui, vous pourrez observer le comportement de l'Église mondaine d'aujourd'hui. Observez bien. Bon, évidemment, il y a aussi le comportement de l'épouse spirituelle, de l'Église. Voyez, ça aussi, observez-le. Parce que la soi-disant épouse, celle qui est naturelle, elle prétend être l'épouse. Maintenant, s'il vous plaît, je le répète à l'Assemblée locale, ne le prenez pas mal, là. Je suis en train de parler à ceux, d'un bout à l'autre du pays, que je considère comme étant la dame élue. Alors, s'il y avait ici des ministres qui ne soient pas d'accord, eh bien, gardez simplement le silence pendant quelques instants. Voyez, remarquez, écoutez simplement. Remarquez ce caractère. Quand vous voyez les femmes qui se déchaînent, qui font tout ce qu'elles veulent, alors observez. L'Église fait la même chose. Remarquez, mais observez, quand l'épouse spirituelle, quand elle commencera à avoir un réveil, quand elle commencera à revenir, à s'aligner sur la parole de Dieu, alors observez de nouveau, vous voyez, les Écritures, à ce moment-là, il y aura un message qui se répandra pour atteindre cette épouse, pour atteindre cette femme, l'élue. En effet, comme le monde, Satan, l'imposteur, c'est lui qui a trompé la première épouse, qu'il a amené à pécher contre Dieu en mettant en doute sa parole. Et maintenant, aujourd'hui, comme nous voyons l'Église naturelle, qui, par son évangile intellectuel, s'éloigne de plus en plus de la parole pour s'adonner à un évangile social. Nous voyons que les femmes du monde, dans la rue, elles qui sont membres de ces églises-là, elles vivent dans cette même atmosphère. Il n'y a pas moyen de le leur dire. Elles ont perdu toute notion de ce qu'est la sainte décence. Voilà ce qui est arrivé aux gens, voyez? Et c'est ce qui est arrivé à l'Église aussi. On peut la voir se diriger tout droit vers le conseil œcuménique, aussi sûr que 2 et 2 font 4, et tout droit vers Rome, à toute vitesse, vous voyez? Parce que c'est ce qui a été prophétisé. Et la voilà. Voilà son comportement. Mais alors, observez de nouveau l'Église spirituelle. Ce qu'il en a été de ce groupe de gens appelés à sortir, les élus, dans chaque réveil. Avec Martin Luther à la réforme, il est arrivé la même chose. Il est arrivé la même chose du temps de John Wesley. Il est arrivé la même chose au début, quand le pentecôtisme a commencé. Il ramène ces femmes à s'aligner directement sur la parole. Après quoi, elles commencent à dériver. Et la voilà qui retombe dans le chaos. Mais alors, au moment où les gens sont prêts à s'aligner, un message apparaît et ils s'alignent là-dessus. Luther a été le messager d'une époque, celle de la justification, et l'Église s'est alignée directement là-dessus. Quelques-uns l'ont fait, les autres ont continué dans leur voie. Wesley est arrivé avec la sanctification, et l'Église s'est alignée directement là-dessus. Le pentecôtisme est arrivé avec la restauration des dons, et l'Église s'est alignée directement là-dessus. Les élus de cette époque-là, après quoi, ça s'est mis à décliner, c'est retombé de nouveau dans le système des dénominations, et ça s'est retrouvé dans le même état que toutes les autres, comme ça s'était passé tout le long. Bon, mais si vous remarquez, quand les gens commencent à essayer de s'aligner sur la parole, c'est là qu'un message frais, sorti de la parole de Dieu, est adressé directement aux gens. Ils saisissent ce message et ils s'alignent dessus, chaque fois. C'est tout simplement comme ça que Dieu sait ce qui arrive. Nous avons des familles. Chaque famille, ici, est habituée à ça. Parfois, pendant des années, tout ira très bien. Puis, tout à coup, vous traverserez une période où, comme nous le disons souvent ici dans le Sud, quand il pleut à verse. Tout va de travers. Vous traversez une nuit, puis vient l'horreur. Puis, de nouveau la nuit. Tout se déroule dans la continuité. Ici, Paul, le prophète, dit qu'une femme ne peut pas se remarier avant que son premier mari soit mort. Elle ne peut pas se remarier pendant que son premier mari est vivant. Elle ne le peut en aucun cas. Elle doit rester seule tant que son premier mari est vivant. Et si elle commet un tel péché, elle sera appelée adultère. Je présente ici le côté naturel pour montrer que c'est un type qui représente le côté spirituel. Si cette femme commet un tel péché, alors elle est marquée comme adultère. si elle a deux maris vivants en même temps. Elle perd donc, de ce fait, ses droits pour ce qui est de Dieu et du ciel en faisant une telle chose. Assurément, elle est exclue de l'économie de Dieu selon les Écritures, ce que je viens de lire. Il en est de même pour l'Église, quand elle essaye de mélanger des credos et des dénominations avec la parole de Dieu. Elle ne peut pas être mariée à une dénomination et être l'épouse de Christ en même temps. Il faut qu'elle soit morte à l'un ou à l'autre. C'est ce que dit la loi ici. Il y a beaucoup de lois dans la parole de Dieu, et ça, c'est sa loi. C'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Elle ne peut pas être mariée à une église à credo mondain tout en étant l'épouse de Christ, parce qu'elle, que ces choses sont opposées l'une à l'autre. Maintenant, souvenez-vous-en, vous dites, « Eh bien, nous croyons ceci, mais nous ne croyons pas cela. » Si vous êtes marié à Christ, Christ, c'est la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 1, il est dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu, et elle a été faite chair et habitée parmi nous. Christ était la parole vivante, il a toujours été la parole, il est encore la parole, il sera toujours la parole. Il était simplement la manifestation des attributs de Dieu, car il était le Fils de Dieu, et tout Fils est la manifestation des attributs de son Père. Tout comme vous, vous étiez dans les gènes de votre père, dans le corps de votre père, quand il était un jeune garçon, vous étiez en lui. Cependant, il ne pouvait pas être en communion avec vous, parce qu'il ne vous connaissait pas. Mais ensuite, grâce au terrain d'ensemencement de votre mère, vous avez été enfanté sur cette terre, et vous avez été fait à l'image de votre père. Et alors, il a pu être en communion avec vous. De même, vous, vous étiez fils de Dieu et fille de Dieu, avant même qu'il y ait une lune, des étoiles ou une molécule. Vous étiez fils et fille de Dieu, car vous êtes simplement la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en Dieu au commencement. En effet, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'était vous, avant, vous n'en savez rien, et de même, vous n'en saviez rien quand vous étiez dans votre Père terrestre, mais vous avez été manifesté, alors, à son image. Vous avez été fait à l'image de Dieu, et vous avez été manifesté pour la gloire de Dieu et pour la communion avec lui. Et donc, aussi sûr qu'il fallait que votre gène se trouve dans votre Père avant votre naissance naturelle, il fallait que votre gène spirituel se trouve en Dieu, puisque vous êtes une expression des attributs de ses pensées, d'avant la fondation du monde. Exact. Il n'y a pas moyen de passer à côté. C'est exact. Bon, donc, nous remarquons là que cette vie était en vous, que la vie de Dieu était en vous dès la fondation du monde. Or là, vous ne pouvez pas croiser les credos d'une dénomination avec la parole, parce qu'ils sont trop opposés l'un à l'autre. C'est exactement ce que Satan a essayé de faire en se servant de sa conception intellectuelle pour s'adresser à Ève. Il a dit, il a reconnu que Dieu l'avait dit, mais il a dit, « Vous ne mourrez point certainement ». Voyez, et il croit ça. Voilà ce que les credos ont fait ce soir. Les dénominations ont séparé les gens de la parole de Dieu. N'est-ce pas que Jésus a dit, quand il est venu, « Vous, par vos traditions, vous avez annulé l'effet des commandements de Dieu sur les gens ?» Et par nos credos, nous nous sommes dissociés de la communion avec le Saint-Esprit, qui oint la parole de Dieu destinée à être dispensée à cette génération-ci. Nous en avons tellement séparé les gens par les dénominations qu'ils n'ont pas la possibilité de voir ce qu'il en est. Or Dieu, il, à chaque génération, il ajoute une nouvelle partie de son livre. Toutes les parties vont ensemble. C'est comme ça que mon corps s'est développé. D'après ce qu'on me dit, il a commencé à se former dans la colonne vertébrale. Mais tout n'était pas la colonne vertébrale. À cela se sont ajoutés les côtes et les poumons, ensuite les mains, les bras, les pieds, et ainsi de suite. Et ce qui en est résulté, c'est la personne que je suis. Et c'est comme ça que Dieu a été manifesté au commencement. Finalement, il est apparu comme Jéhovah, Dieu le Père. Ensuite, il est apparu comme Dieu le Fils en Jésus-Christ. Maintenant, il est apparu comme Dieu, le Saint-Esprit, le même Dieu depuis le début, trois manifestations du même, même Dieu. Alors, nous voyons ainsi que Dieu, à chaque génération, il a assigné une portion de sa parole, depuis le commencement. C'est exactement comme ça que l'évolution a eu lieu. C'est exactement comme ça, Dieu, ce qu'il a créé en premier, c'est probablement, disons qu'il a commencé par créer la vie végétale. Après quoi, il a créé la vie animale. Après quoi, il a créé la vie humaine. Un genre d'évolution vers une vie toujours supérieure. Il en était de même pour ce qui est de Dieu et son Église. La justification avec Luther. La sainte sait qu'il est en train de faire sortir de là son épouse maintenant. Il est en train de créer son épouse. La justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, et ainsi de suite. Vous voyez, l'évolution de l'esprit donnée dans une mesure de plus en plus grande, parce que le corps est en train de se développer, progressant vers la tête qui est Christ, le corps de Christ. Maintenant, elle, puisqu'elle est une femme, si elle est mariée à Christ, la parole, elle ne peut pas être mariée en même temps à une église dénominationnelle, car elle est liée à celui-ci. Elle sera, ne peut pas vivre avec les deux maris en même temps. Ils sont opposés l'un à l'autre. L'un est envoyé de Dieu, l'autre est fait de main d'homme. Ils sont donc en opposition. Il a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, que la mienne soit reconnue pour vérité. C'est Dieu qui a dit ça. Ils sont tout aussi opposés l'un à l'autre que la loi était opposée à la grâce. Comme Paul le disait ici, l'un des deux doit être mort pour qu'on puisse entrer en possession de l'autre. Et si elle essaye de les mélanger ensemble, elle sera appelée adultère. Oh, pensez-y! New York, l'Arizona, d'un bout à l'autre du pays, pensez-y! Dieu a dit, si elle essaye d'avoir deux maris en même temps, elle sera appelée adultère. Quel adultère peut entrer au ciel? Est-ce que Dieu épouserait une adultère? Certainement pas. Il nous a demandé à nous de ne pas le faire. Elle sera appelée adultère. Alors, ses enfants, si elle est adultère, ses enfants sont illégitimes. Illégitimes. Illégitimes en ce qui concerne quoi? Non pas l'Église, mais la parole. Elle est illégitime. Quelle image nous voyons ici d'Apocalypse 3? De l'âge de l'église de Laodicée, des derniers jours. Quel groupe illégitime! Quel méli-mélo dénominationnel! Tiède, ils se conduisent n'importe comment et se disent chrétiens, alors qu'ils renient la parole de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui ont fait la force, comme le prophète l'avait annoncé à leur sujet. Le mariage est la plus vieille institution du monde. C'est dans le jardin d'Éden que le mariage a été célébré pour la première fois et qu'il a été institué. Il a été confié à la femme certains caractères distinctifs qu'elle ne doit pas souiller. C'est ce qui a été confié à la femme. Il n'y a aucune créature sur terre qui soit comme la femme. Il n'y a aucune chienne, il n'y a aucune femelle de quelque espèce que ce soit, à laquelle il ait été confié ce caractère propre à la femme. La femme ne faisait même pas partie du commencement de la création, parce que Dieu savait qu'elle allait tomber. Toutes les autres femelles ne pouvaient pas commettre adultère. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Si elle avait été faite comme la création originelle, cela aurait été contraire à la grande sagesse de Dieu. Voyez, elle a été faite un produit dérivé de l'homme. Mais parce qu'elle a été mise de ce côté-là, elle a aussi reçu de Dieu une charge sacrée quant à la rédemption. Il y a chez elle des caractères distinctifs qu'elle ne doit pas souiller. Si elle les salit, alors elle est souillée pour le reste de sa vie. Peu importe combien elle peut être pardonnée, elle ne peut pas être justifiée. Je vais toucher ce point-là tout à l'heure. Je vais prendre un passage de l'Écriture là-dessus dans quelques minutes. Elle peut être pardonnée de s'être souillée, mais elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. C'est toujours à son dossier. Remarquez, donc, c'est ce qui lui a été confié. Elle pourrait être pardonnée, mais pas justifiée. Son corps lui a été donné. C'est un dépôt sacré qui lui a été confié par Dieu. Aucune chienne, aucun oiseau, aucun autre animal, Aucune autre créature n'est comme ça. Non, elle est la seule. Par ceci, elle, la raison pour laquelle c'est tellement sacré, c'est parce que c'est elle qui doit transmettre la vie sur la terre. Son corps est le terrain d'ensemencement de la vie. C'est pour cette raison, donc, que lui a été confié ce dépôt sacré. Maintenant, voici un point sur lequel vous ne serez peut-être pas d'accord, beaucoup d'entre vous, les théologiens. C'est ce qui a souillé toute la race humaine, cet adultère qui a été commis au commencement. Son terrain d'ensemencement a été sali. Elle a mis au monde ses jumeaux, Caïn et Abel. Un acte, deux enfants. Sondez les Écritures. Oui, remarquez. Alors nous voyons que son corps est le terrain d'ensemencement. Et donc, c'est un dépôt sacré. Elle ne doit pas le souiller. Bon, ce que je dis là, je l'apporte comme une image, pour vous montrer où en est l'Église. Je ne parle pas de vous, les femmes, comment vous êtes, ça, c'est entre vous et Dieu, ou vous, les hommes, mais je parle de l'Église et de Christ. Alors, ceci lui a été confié pour transmettre la vie, que Dieu seul peut donner. Son mari peut porter le germe en lui, mais c'est Dieu qui doit produire la vie, c'est vrai. Cela doit venir, toute vie doit venir de Dieu. Toute forme de vie doit venir de Dieu. Elle est pervertie, et c'est ce qui en fait une vie de péché. Mais la vie doit venir de Dieu. Il est l'auteur de la vie. Donc, elle a un dépôt sacré. Je veux citer ici trois choses auxquelles elle ne doit pas déroger. Maintenant, ce que je dis, gardez l'Église à l'esprit, alors que je le dis en m'adressant à la femme naturelle, comme Paul le fait ici au chapitre 7 de Romains. Elle a un dépôt sacré, une vertu qui lui était confiée par son Seigneur, une certaine vertu. Il n'y a que la femme qui détient cela. C'est vrai. Cela lui était confié par Dieu. Elle ne doit pas souiller cette vertu, même que, si elle fait quelque chose de mal, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne avec lui. Et elle doit redresser la situation. Et c'est pareil pour l'Église, qui avait été mariée à la loi. Elle doit se présenter devant Christ avant le second mariage. Elle doit confesser ça. Si elle ne le fait pas et qu'elle vit avec son mari pendant 10 ans, avant de le lui confesser, il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme. Ça, c'est l'Écriture. La fornication, c'est de mener une vie impure. Joseph ne craint pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il se proposait de rompre secrètement avec elle, vous voyez, après qu'il s'était fiancé avec elle. Quand vous êtes fiancé avec elle, pour Dieu, vous êtes marié avec elle. Remarquez donc, elle a un dépôt sacré, une vertu qui lui était donnée, qui lui était confiée par le Seigneur. C'est Dieu qui lui a donné cette vertu. Exactement comme dans le jardin d'Éden, elle peut dire oui ou non. Elle a un dépôt sacré, une féminité qui lui a été confiée, qu'elle ne doit pas violer. La féminité dont je parle ici, c'est son comportement, son caractère en présence des hommes. De ne pas permettre à tous les hommes, on regarde et on voit sur ces écrans ces vedettes de cinéma qui embrassent ces femmes et les étreignent et se vautrent avec elles. Une femme qui agit comme ça est d'un caractère corrompu. Elle aura beau être vertueuse à part ça, mais vous voyez, dans son cœur, alors que ses glandes, les glandes sexuelles, se trouvent dans les lèvres, l'homme qui embrasse une femme, en fait, il a commis potentiellement un adultère. Les glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de l'homme. Il pourrait lui baiser la main. Il n'y aurait pas d'union des glandes sexuelles. Mais les glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres. Et de voir toutes ces absurdités de Hollywood aujourd'hui, de se vautrer avec les femmes et l'amour libre et tout ça, et les petites filles qui regardent tout ça. Ce n'est pas étonnant que nos mœurs soient corrompues et dépravées et dissolues, vous voyez. C'est parce qu'on présente ces choses aux enfants. C'est vrai, il faut qu'il en soit ainsi dans les derniers jours. Maintenant, gardez l'Église à l'esprit. Elle embrasse, elle se vautre et se mêle à tout, sauf à la parole. Elle s'abandonne au diable et à l'instruction et aux recherches scientifiques et ainsi de suite. Alors que la science, l'instruction et toutes ces choses sont carrément contraires à Dieu. Tout le système de civilisation que nous avons actuellement est carrément antichrist. Le système d'éducation est antichrist. La civilisation est antichrist. Elle est contre Dieu. Vous dites, contre la civilisation, un de ces jours, Dieu aura une civilisation où la mort n'aura aucune place. Cette civilisation moderne vient de Satan. Je vais vous le prouver, si le Seigneur le veut, ce soir, par la Bible. Toutes ces choses sont de Satan. Notre nouvelle civilisation n'inclura rien de tout ceci. Elle a cette féminité qui est sacrée. Ce n'est pas étonnant que les hommes se conduisent comme ça avec les femmes. C'est parce que les femmes se conduisent comme ça avec les hommes. Elles se caractérisent par ces choses. Elles paradent en short, en vêtements moulants, en vêtements d'hommes et tout. Dans la rue, elle est là à se trémousser. Quoi qu'elle dise, elle aura beau être tout ce qu'il y a de plus vertueuse à l'égard de son mari, mais aux yeux de Dieu, elle est adultère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et elle, elle a exhibé sa personne comme ça. Et c'est exactement comme ça que l'Église a agi à l'égard du monde. Remarquez, c'est ce qui lui a été confié, une vertu sacrée, une féminité sacrée, et puis une maternité sacrée, faire honneur à son mari. Regardez donc aujourd'hui, dans certaines villes, dans de nombreuses villes, ils vont même jusqu'à donner de grandes soirées, en société, comme ils disent, et des membres d'église par-dessus le marché. Ils posent leur chapeau par terre, ils s'enivrent tous, puis chacun jette sa clé dedans. Chaque femme va ramasser une clé dans le chapeau pour savoir avec quel homme elle va passer le week-end. Toutes sortes de soirées du genre. Mais j'ai tant de choses à dire ici, si le Seigneur le veut, que je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Quelle souillure! Et l'Église est tout aussi corrompue, c'est vrai. Elle commet adultère avec toutes sortes de choses, alors qu'elle n'a pas à se mêler à ces choses. Elle devrait s'en tenir à la parole. Les bâtiments, c'est bien. Les hôpitaux, c'est bien. Toutes ces autres choses, c'est bien. Les programmes pédagogiques, c'est bien. Il nous faut vivre ici. Il faut lire, écrire. Ça fait partie de l'économie. Par exemple, nous n'étions pas censés mettre des vêtements au commencement. Je prêcherai là-dessus plus tard cette semaine, si le Seigneur le veut. Mais il faut porter des vêtements, parce que Dieu nous a donné des vêtements. Mais au commencement, nous n'en avions pas besoin. Nous étions voilés. Maintenant, elle est couverte d'un voile qui l'empêche de voir son péché. Elle ne sait même pas qu'elle pêche. Vous voyez, comme elle l'était en ce temps-là, par... Maintenant, elle est voilée par le diable. En ce temps-là, elle était voilée par Dieu. C'est ça qui fait la différence. Donc, nous voyons qu'il lui a été confié ce dépôt sacré, qu'elle ne doit pas violer. Sa féminité, de se tenir, de faire preuve de caractère, d'élever ses enfants, de faire honneur à son mari. De nos jours, elle ne prête aucune attention à ça, pas le moins du monde. Il faudrait vous asseoir dans mon bureau un de ces jours et voir les hommes qui viennent avec leurs femmes, alors qu'elles essayent de se mettre en règle avec Dieu et de se confesser de toutes les relations qu'elles ont eues avec d'autres hommes et tout depuis leur mariage. Oh, vous dites, ça ce sont des... Non, ça ce sont des pentecôtistes. Ah, les autres ne viendraient pas. Alors c'est, ce que je suis en train d'exprimer, c'est à quel point on peut s'éloigner quand on se met à frayer avec le monde, l'Église, avec toutes les modes et toutes ces choses qu'il y a parmi nous. Nous ne ressemblons pas plus à la Pentecôte originelle que le jour ressemble à la nuit. Nous avons dérivé quelque part, nous avons sombré quelque part dans un chaos ténébreux et nous sommes perdus. Quel dépôt sacré, quelle responsabilité confiée à la femme. Maintenant, voyez-vous pourquoi elle est un type de l'Église qui a la même responsabilité comme la femme qui a une responsabilité sacrée à l'égard de sa maternité, de ses vertus, de son mari. De même, l'Église a une responsabilité sacrée à l'égard de la prière, de la parole et de Christ, exactement comme la femme. De même, comme la femme qui va à la dérive avec un autre homme, quand l'Église sombre dans les programmes institutionnels, des programmes de construction, des écoles et tout ça. Je n'ai rien contre. Ces choses-là, c'est bien. Elles ont leur utilité. Mais elles ne sont pas... Jésus n'a jamais dit « Allez construire des écoles ». Il a dit « Prêchez la parole ». C'est ce qu'il néglige. Il ne s'agit pas de construire des institutions, des hôpitaux et ainsi de suite. Ces choses-là, c'est bien. Mais le devoir de l'Église, ce n'est pas ça. Son devoir, c'est de prêcher l'Évangile. Mais nous avons fait tout sauf ça. Et nous avons dérivé dans ces choses, tout comme Satan l'a fait en mélangeant celle-ci avec un peu d'Évangile. Autre chose, puis autre chose encore, au point que c'est devenu une agglomération qui n'a aucune valeur. De la corruption qui s'est étendue à la totalité de notre, la totalité du monde. Observez vers quoi se dirige le monde. Il n'y a pas longtemps, je lisais dans le Reader's Digest que des jeunes filles ont leur ménopause et des hommes leur retour d'âge, entre l'âge de 20 et 25 ans. ils arrivent à l'âge mûr. De la corruption. Pourquoi? À cause de la recherche scientifique sur la nourriture et autres, ce qui a détérioré les choses naturelles dont nos corps devraient se nourrir. Nous ne sommes qu'un paquet de corruption qui court vers la mort. Or, voilà aussi ce qu'est l'Église. Elle est dans le même état. Elle est un type. Elle a les mêmes précieuses vertus par l'Esprit qui lui ont été données pour préserver l'Esprit et la parole et ne jamais commettre adultère avec quoi que ce soit qui est du monde, ni rien. Rester vierge à l'égard de la parole, comme une femme doit rester vertueuse à l'égard de son mari, c'est un dépôt sacré. Honorer la parole de son Seigneur par-dessus tout ce qui existe comme credo, comme sagesse, comme dénomination de fabrication humaine. L'Église a reçu ce dépôt. S'ils disent, « Eh bien, mon Église, peu importe ce que votre Église croit, si c'est contraire à la parole de Dieu, tenez-vous loin de ça. » La Bible dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Marc 16 dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Si une église prêche autre chose que cela, il ne faut surtout pas, vous devez mourir à cette chose. Naissez de nouveau dans la parole de Dieu. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Voilà jusqu'où celui-ci devait aller. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Par tout le monde et toutes les créatures qui croiront. Vous voyez combien nous nous en sommes éloignés? Certainement, mais elle a la responsabilité de cela. Mais maintenant, regardez ce qu'il en est. Hollywood a arraché aux femmes de chez nous ce qu'il y avait de vertueux en elles. Je suis en train de regarder une chère dame âgée, Sœur Schrader. Beaucoup des femmes qui sont ici, et là derrière, et Sœur Mort qui est ici, les femmes d'un certain âge, se souviennent d'il y a quelques années en arrière. Si leur mère, ou même elle, était sortie dans la rue, comme certaines de ces femmes se promènent aujourd'hui, des membres d'église, on aurait fait interner cette femme pour aliénation mentale. Elle a oublié de mettre sa jupe. Eh bien, si c'était de l'aliénation mentale à cette époque-là, ça l'est aussi maintenant. Eh bien, regardez, le monde entier le prouve bien, qu'il est frappé de folie. Regardez les meurtres et les choses qui se déroulent maintenant dans le monde. Voyez, de la folie. Tout ce qui arrive vient accomplir l'Apocalypse. Nous verrons peut-être ça cette semaine. Alors que ces choses hideuses, qui ne sont pas des choses naturelles, ce sont des choses spirituelles, qui font que les gens crient aux rochers et aux montagnes et tout, de tomber sur eux. C'est dans une folie complète, totale, que ce monde va bientôt sombrer. Et il en est presque là actuellement. Eh bien, vous pouvez en voir les signes à vos coureurs. Ça y est, c'est en marche, c'est déjà là, dans la rue. Et jusque sur les bancs d'église, de la folie totale. Ils font des choses qu'un être humain civilisé ne songerait pas à faire. Regardez ce que Hollywood a fait à la femme. Regardez ce qu'il en est. Hollywood a dépouillé la femme de ses vertus sacrées. Nous pourrions continuer encore longtemps. Voyez, elle a perdu toutes ces choses. Comment en est-elle arrivée là? À cause d'un instrument rusé appelé l'Église, tout comme il y en avait un dans le jardin d'Éden. Une personne rusée, le diable, est entré dans l'Église, tout comme il l'avait fait dans le jardin d'Éden. Et il a usé de moyens de séduction pour l'entraîner là-dedans. Elle est séduite. La femme pense, ce n'est pas volontairement qu'elle est dans l'erreur. Ce n'est pas volontairement qu'Ève a mal agi. Elle ne l'a pas fait délibérément. Mais elle, la Bible dit dans 2 Timothée, 1 Timothée 3, elle a été séduite. Et séduite, ce n'est pas quand vous le faites délibérément. C'est quand on use de moyens de séduction pour vous amener à le faire. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Elle a été séduite par la télévision, par les magazines, par ces gens, toutes ces belles choses qui passent dans la rue. Les jeunes filles modernes, elles regardent les magazines, elles regardent les photos, elles regardent dans la rue, elles voient les vêtements dans les boutiques. Oh, comme Satan, ce grand instrument de l'enfer, est descendu parmi les gens et a usé de moyens de séduction pour les entraîner dans ces choses. Et la femme pense qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle est morte et elle ne le sait pas. Elle est loin de Dieu. Vous voyez comment elle a perdu toutes ces choses et comment ça s'est fait par la ruse? Aujourd'hui, je voudrais vous faire remarquer, Jésus a parlé de ceci. Et si vous désirez le lire, Jésus l'a dit, que ceci allait arriver. Le saviez-vous? Dans les dernières heures qui ont précédé sa crucifixion, lisons-le donc, dans Luc, au chapitre 23, juste un instant, comme une leçon d'école du dimanche, à partir du verset 27, je crois que c'est ce que j'ai noté ici. Jésus se rend au calvaire. Écoutez pendant que je le lis. Très bien, Luc 23, 27. Je crois que c'est là que ça se trouve. C'est ce que mes notes indiquent. Oui, voilà, c'est ça. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours, jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Pensez à aujourd'hui, c'est honteux pour elles d'avoir un enfant. » Voyez ? Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, écorce, et aux collines, couvrez-nous !» Car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec ? Il parle de l'époque où les femmes ne voudraient plus avoir d'enfants. Elles veulent un chien, ou un chat, ou quelque chose comme ça. Mais elle ne veut plus d'enfants. Pourquoi ? Elle sera comme la mère Michel, si elle a un enfant. Voyez ? Elle ne veut pas. Voilà les commentaires qui viennent de Hollywood. Il ne veut pas que sa femme soit une mère Michel. Alors, il se fera opérer, ou bien elle, l'un des deux, pour les empêcher d'avoir des enfants. Ils ne veulent pas d'enfants. Jésus en a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit ? En ce temps-là, ils se mettront à crier aux rochers, aux montagnes, de tomber sur eux. Elle pratiquera le contrôle des naissances pour pouvoir se permettre d'aller à ses soirées. Elle ne veut pas s'encombrer d'un bébé qu'il faut allaiter. Ça va la déformer. Enceinte, c'est ce qui va arriver, ça va la déformer. Elle n'aura plus l'apparence qu'elle avait. Et son mari est assez ignorant pour la laisser faire. Elle ne veut pas lui donner un enfant. Jésus en a parlé et il a dit que quand elle ferait ça, que c'est en ce temps-là que les gens se mettraient à crier aux rochers de tomber sur eux. C'est la venue du Seigneur. Elle paye de grosses sommes d'argent pour avoir des chats, des chiens à dorloter. C'est vrai. Il faut qu'elle ait quelque chose à dorloter, parce que c'est sa nature que Dieu lui a donnée. Je remarque ceci, je chasse le gros gibier, la vieille ours, à l'automne, quand il y a eu accouplement avec le mâle. À ce moment-là, elle a déjà des oursons à elle. Ces oursons-là sont maintenant de taille respectable. Ils pèsent peut-être 45 kilos ou plus. Oust, elle les chasse pour qu'ils aillent hiberner tout seuls, parce qu'elle va mettre bas d'autres petits. Ils naissent en février. L'ours n'en a pas connaissance. Ils naissent dans de petits sacs. Dieu les amène à ouvrir ces petits sacs tout seuls. De petits, ça ressemble à de petits sacs de cellophane. Ils trouvent leur chemin tout seuls. Leur mère est profondément endormie. Elle n'a rien mangé depuis octobre. Et on est en février. Ils viennent se mettre auprès d'elle. Et elles se nourrissent de son lait jusqu'à la mi-mai. Alors, quand elle voit ces oursons, ils sont déjà d'une taille respectable. Ils pèsent peut-être 7 kilos, de 5 à 7 kilos chacun. Ils se sont nourris de son lait. Comment elle arrive à produire du lait, ça, c'est l'affaire de Dieu. Elle vit sur ses propres ressources, en plus de produire du lait pour ses oursons. Mais si l'accouplement ne donne rien, qu'elle n'a pas d'autres oursons, alors elle ira à la recherche des oursons de l'année précédente. Et elle les dorlotera tout l'été. Parce que c'est un instinct que Dieu lui a donné. Il faut qu'elle ait quelque chose à dorloter. De même, si une femme ne donne pas un enfant à son mari, elle va se procurer un chien ou un chat ou quelque chose comme ça. Il faut qu'elle dorlote quelque chose. C'est sa nature. Mais pour ce qui est de donner un enfant à son mari et de l'élever pour qu'il serve Dieu, ça, ce n'est vraiment pas son rayon. Elle devrait, si elle le faisait, elle serait carrément en disgrâce auprès de cette société qui aime le péché, du type de femme que nous avons en 1965. Voilà une image bien réelle de l'Église moderne d'aujourd'hui. L'Église moderne non plus, elle n'en veut pas autour d'elle. De ces enfants que produit Acte 2.38, qui hurlent, qui poussent des cris, qui parlent en langue. Oui, oui, voyez, oui. Elle n'en veut pas de ceux qui poussent des cris, qui pleurent, qui crient « Amen, Alléluia !» Voyons, avec un enfant pareil, elle se ferait tout de suite exclure de sa dénomination. S'il y en avait un comme ça dans une des églises, eh bien, il la mettrait tout de suite à la porte. Pourquoi permettez-vous de telles choses ? Donc, vous voyez, elle était fécondée par quelque chose, puisqu'elle produit continuellement des membres. Mais elle ne veut pas de ceux qui hurlent, qui braillent, qui bredouillent toutes sortes de choses. Les créatures misérables de Acte 2.38. Voilà ce qu'elle pense d'eux. Ça la mettrait vraiment dans l'embarras. Ça lui abîmerait le portrait. à elle et à la société scientifique cultivée et à cheval sur les principes qu'est l'Église dont elle fait partie. Il la mettrait à la porte à la prochaine réunion du Conseil. Elle ne peut pas se permettre ça. Donc, elle ne veut pas être fécondée par la parole. Parce que cette espèce-là est la seule que la parole peut produire. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Pas question d'adhérer intellectuellement à une église, de marcher dans les credos, pas de cheveux coupés, de visage fardé. On ne trouve rien de semblable, nulle part en elle. On ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Ce qu'on y trouve, c'est un enfant à l'ancienne mode, sanctifié, rempli du Saint-Esprit, né de l'Esprit de Dieu, qui hurle, qui braille, qui pousse des cris, qui loue Dieu. Ça, elle, ça la dépasse complètement. Elle ne veut pas de ça. Oh non, monsieur, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc produire une paire de chattes. Je pense que c'est comme ça qu'ils les appellent. Illégitimes, de cette société à la Jézabel, qui ont le visage fardé et qui portent des shorts. Voyez? Je pense qu'ils les appellent des chattes. Voyez? Regardez la chatte qui passe là-bas, qu'ils disent. Ou quelque chose comme ça, vous savez. Elle est née ou a été mariée, unie à son premier mari, le premier Adam, par Ève, la femme adultère, la première femme d'Adam. Vous dites, adultère? Bien sûr qu'elle l'a été. Mais, oh, elle prétend que cet Adam, ce premier Adam, est mort. Oh, bien sûr, il y a belle lurette qu'il est mort. Je suis née de nouveau, qu'elle dit. Et certainement, je suis mariée au second Adam, à Christ, la parole. Comment? Remarquez ce qu'elle aime. Observez son amant, si vous voulez voir de qui elle est amoureuse. La parole dit ceci, mais elle, elle dit, « Mon Église dit ceci. » Alors, de qui est-elle amoureuse? Qui est son mari? Ses propres fruits prouvent ce qu'elle est. C'est tout à fait vrai. Il démontre ce qu'elle est. Remarquez, elle est d'abord née d'Adam, parce que ça, c'est sa naissance naturelle. Voyez? Et elle ne s'en est jamais défaite. C'est une amoureuse du monde. Elle prétend que la deuxième fois, elle est née de Christ. Mais son amant, si vous remarquez, c'est toujours Adam, puisqu'elle aime le monde. Et en plus, remarquez quelle espèce d'enfant elle produit. Voilà ce qui indique qui est leur papa, si c'est le premier Adam ou bien si c'est le second Adam. Si l'Église produit un enfant du second Adam, il agira à la manière du second Adam, comme ils avaient agi le jour de la Pentecôte. Ce sont eux les vrais, les véritables enfants du second Adam. Voyez, c'est vrai. De nature, ils sont comme lui et comme elle. Oui, monsieur, ses filles à elle, le visage fardé, les cheveux coupés, elles portent des vêtements d'homme, des pantalons. La Bible lui dit de ne pas faire ça. Elle se coupe les cheveux. C'est une honte pour elle. Vous dites, taisez-vous là-dessus. C'est ce que dit la parole. Je vous fais remarquer sa nature, c'est tout. C'est ce qu'elle fait. Ses fils à elle, les fils qui lui sont nés, ils s'appuient sur l'instruction, sur des études, sur un institut soi-disant biblique, sur une université réputée, à ce qu'on dit, depuis longtemps, qui les fait éclore comme dans un genre d'incubateur. Des chercheurs dénominationnels, religieux à la manière de Caïn, absolument illégitimes en ce qui concerne la parole, tout comme Caïn l'était, c'est vrai, tout aussi illégitime que Caïn l'était. Bien sûr, des chercheurs dénominationnels. Vous voyez ce que c'est? Dieu n'a jamais organisé une seule dénomination. Il a toujours été contre ça. Sa parole est contre ça. Mais eux, ils s'y cramponnent. Alors vous voyez ce qu'ils produisent. Ça montre qui est leur papa et leur maman. Exactement, exactement. Tout aussi illégitime que Caïn. C'est ce genre d'enfant-là qu'il a produit par Ève. Ils se sont éloignés de la parole. Et alors, vous voyez ce qu'elle a produit? C'est exactement ce que l'Église a produit, la même chose. Je peux vous le prouver par la parole, que c'est de là que l'instruction et la civilisation sont venues, de Caïn. C'est tout à fait vrai, car ils prétendent, mais ils prétendent être fils de Dieu. Mais ils ont été engendrés par une dénomination, instruits à l'institut d'une dénomination et tout le reste. C'est tout à fait vrai. Rusés, intelligents, oh là là, c'est comme ça qu'était le serpent leur père. C'est vrai, des prédicateurs rusés et scientifiques, autant que Caïn elle était. Voyez, c'est exactement la même chose. Vous dites, frère Branham, c'est vrai ça? Prenez Genèse 4.16 et vous verrez. Revenez prendre Genèse 4.16 un instant et vous verrez comment c'est arrivé. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Et ainsi de suite, jusqu'à Tubal, et ainsi de suite, là, ils ont commencé, se sont mis à forger des instruments, de musique et tout. La civilisation est venue de Caïn. C'est vrai, bâtir des villes, fabriquer des instruments. Les scientifiques sont venus de Caïn, la semence du serpent. Maintenant, remarquez le verset 25. Et Adam connut encore sa femme. Or, il l'avait connue une première fois. Et elle avait eu deux enfants. Sondez l'écriture. Elle a eu Caïn et Abel. Un seul acte et deux enfants. Vous dites, il n'y a pas longtemps, on m'a dit que c'était impossible, que ça ne pouvait pas arriver. Nous en avons un cas à Hollywood. Hollywood, nous en avons un cas à Tucson en ce moment, devant le tribunal. Une femme a donné naissance à un enfant de couleur et à un enfant blanc en même temps. On dit que ce n'est pas possible. Mais si, elle peut porter deux semences fécondées. C'est devant les tribunaux en ce moment. Je sais que ça arrive chez les chiens, ça arrive chez les animaux. C'est ce qu'elle a eu. Alors l'homme blanc a dit, « Je veux bien subvenir aux besoins de mon enfant, mais pas de celui-là. » Et la femme a fait des aveux. Elle avait une relation avec son mari ce matin-là et avec l'homme de couleur cet après-midi-là. Si ça se produit, a déclaré le médecin, dans les 24 heures, c'est possible. S'il y a là une autre semence fécondée. Et voilà, c'est ce qu'elle a fait. Et c'est exactement ce qui est arrivé ici. Caïn, Satan ce matin-là, dans le serpent, et Adam cet après-midi-là. Alors qu'elle, elle a eu deux enfants. Or, Adam connut encore sa femme, la deuxième fois, et elle enfanta un fils. Souvenez-vous, nulle part dans la Bible, il n'est dit que Caïn était le fils d'Adam. Il y est dit, il était du malin, pas d'Adam, du diable. Connut encore ça, la deuxième fois, et connut, elle eut un fils, et appela son nom Seth, car, dit-elle, Dieu m'a attribué. Ce n'était pas la vraie semence, m'a attribué une autre descendance à la place d'Adam que Caïn a tué. Ainsi, Seth eut aussi un fils, et il appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Non pas dans la généalogie de la postérité de Caïn, mais dans la généalogie de Seth. Donc, Caïn est du malin. Voilà le serpent. Maintenant, remarquez, la Bible dit clairement ici qu'il faut que son premier mari soit mort. Pas seulement répudié, il faut qu'il soit mort. Je viens de prêcher sur le mariage et le divorce, et vous êtes tous au courant de ça. Maintenant, je ne parle pas rien qu'à cette assemblée ici, mais à tout le pays. Très bien. Or, vous voyez ce qui est arrivé là, quand on a apporté le mariage et le divorce, alors que l'ouverture des sept sceaux a mis en lumière ce qui est réellement la vérité là-dessus. Alors, pour être marié au second Adam, à Christ, la parole, il faut vous séparer de votre premier mari dénominationnel, par la mort, parce qu'il n'y a pas une seule dénomination qui peut accepter toute la parole de Dieu. Montrez-moi donc où elle se trouve. Oh, vous dites, la mienne. Un autre dira, la même chose de la sienne. Mettez-les ensemble et vous allez constater que vous êtes tous les deux dans l'erreur, dès que vous formez une dénomination. Lisez Apocalypse 17. Alors, vous voyez, il faut que vous soyez mort à cette chose-là. Or, je ne parle pas à cette assemblée locale, je parle, en fait, à tout le pays. Il faut que vous soyez mort à votre premier mari. Si vous êtes uni à Christ et encore marié à une dénomination, vous êtes adultère. Vous êtes Laodicée. En tant qu'Église, d'un bout à l'autre du pays, nous suivons Jésus-Christ, la parole. Pour être de l'épouse, il faut vous remarier avec la parole de Dieu qui est Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Tant que vous vous accrochez aux traditions humaines des dénominations, vous êtes appelé dans la parole de Dieu adultère. Tant que vous recherchez des credos dénominationnels, que vous faites partie d'une église dénominationnelle qui nie la parole, vous êtes adultère. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux dieux à la fois, soit que vous serviez Dieu ou que vous serviez Mammon. Mammon, c'est le monde. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. La semence de Dieu ne peut pas être en lui en même temps que l'amour de Dieu, l'amour du monde est là. Lorsque la semence de Dieu est à l'œuvre en vous, c'est la parole de Dieu. L'amour du monde ne peut pas s'y trouver en même temps. Maintenant, où sont les cheveux courts, les shorts et les visages fardés? Maintenant, où sont ces choses? Vous ne pouvez pas être vertueux à l'égard de Christ, la parole de Dieu, et servir en même temps une dénomination faite de mains d'hommes. C'est contraire à la parole. Paul l'a dit ici. Où ça? Romains 7. Vous ne pouvez pas non plus enfanter des fils de Dieu, de sa parole, à ce groupe dénominationnel illégitime. Vous ne le pouvez pas. Dans votre incubateur, vous ne pouvez pas produire un fils de Dieu de la parole. Je parle à l'Église. Mais vous prétendez quand même être très religieux. Cain aussi, le fils d'Ève, la prostituée, il était très religieux. Il a bâti des autels, offert des sacrifices, payé ses dîmes et fait tout ce que n'importe quel autre homme religieux aurait fait. Mais il n'a pas gardé la parole, il n'a pas eu la révélation. Et la révélation, c'est tout ce qui compte, la révélation de la parole. Qu'est-ce qu'une révélation? Jésus a dit, « Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Une révélation, c'est la foi, parce que la foi vous a été révélée. C'est par la foi qu'Abel offrit, par révélation, par la foi, qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. Cain pensait qu'ils avaient mangé des pommes. Les gens ont encore cette idée-là aujourd'hui. Mais ce n'était pas ça. C'était un adultère, la semence du serpent. Et là, l'ouverture des sept sceaux l'a déclaré et prouvé. Mon livre là-dessus vient de sortir. Nous en avons, je pense, 1000 exemplaires ici maintenant. Voyez? Remarquez, c'est selon l'Écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Au temps de la fin, les deux arbres arrivent au stade de donner leur semence et démontrent ce qu'ils sont. Nous en sommes exactement là aujourd'hui. Laodicée et l'épouse. C'est clair et net au possible. Dans l'Écriture et en plein devant vous. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas être un chrétien vertueux qui croit la Bible tout en vous associant à une entreprise dénominationnelle. Vous ne pouvez absolument pas faire les deux en même temps. Il faut que l'un des deux soit mort pour que l'autre puisse vivre. Et vous ne pouvez pas non plus enfanter un fils de la parole de Dieu. L'Église non plus. Elle ne peut pas mettre au monde. Ils ne veulent pas un de ces enfants-là qui hurlent, qui poussent des cris, qui parlent en langue et toutes ces choses. On ne peut pas faire ça dans une église dénominationnelle. Ils ne vous le permettront pas. Ce n'est pas leur manière de les produire. Ils les font venir à l'avant, leur serrent la main et disent, « Si vous croyez, vous l'avez, pourvu que vous mettiez votre nom sur le registre. C'est tout ce que vous avez à faire. » Voyez, ce sont des enfants illégitimes en ce qui concerne la parole, mais qui prétendent pourtant être religieux. Alors, fécondés par la sagesse et la connaissance de Satan, voilà l'état dans lequel l'Église s'est retrouvée. Ils envoient leurs gens dans des instituts pour qu'ils y apprennent à dire « Amen » comme il faut. Ils leur apprennent à dire tout ça et à être très intellectuels. Qu'est-ce? C'est la fécondation du diable. Avec quoi Satan avait-il fécondé Ève? Avec de l'incrédulité à l'égard de la parole, au profit de l'intellectualisme, de l'intelligence. Et cela a causé la perte de toute la création. C'est exactement ce qu'elle a fait de la parole aujourd'hui, l'Église. Elle s'est retrouvée fécondée par les instituts bibliques, les universités et ce genre de choses-là. La lecture, l'écriture, l'arithmétique. Et ils ne connaissent pas plus Dieu qu'un hottentot ne peut connaître une nuit égyptienne. Ils connaissent tous leur credo, leur livre de prière et tout ça. Mais de Dieu, ils ne connaissent rien. Quand la parole est confirmée, ils le reconnaissent. Alors que Dieu, il y a longtemps, a parlé. Et il a assigné une portion de sa parole pour chaque génération, à mesure qu'elle se succéderait. Noé est venu, et il a prêché à cette génération. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Moïse était venu disant « Construisons une arche ». Il aurait détonné complètement, mais il était prophète. Il avait la révélation de Dieu. Dieu a confirmé que c'était la vérité. Il a amené les enfants, fait sortir Israël, et il a fait apparaître devant eux la colonne de feu. Il a confirmé le prophète, et il leur a dit exactement ce qu'il allait faire. Et il l'a fait. Ils ont dit, que Dieu ne parle pas, que Moïse parle, de peur que nous ne mourions. Il a dit, je ne leur parlerai plus comme ça, mais je leur susciterai des prophètes, et c'est eux qui parleront. Voilà, Ésaïe s'est tenu là. Il a dit, une vierge concevra. Un homme comme lui, à une époque où, comment une vierge va-t-elle concevoir? Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On appellera son nom, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Sur le trône de son père, David, il régnera. Il n'y aura pas de fin à son royaume. Comment la chose allait-elle se faire? Il ne le savait pas. Il a simplement prononcé ce que Dieu avait dit. Ça dépasse toute imagination, toute intelligence. Ça dépasse toute recherche scientifique. C'est la parole de Dieu. Maintenant, on instruit les élèves de nos séminaires dans toutes sortes de théologies bibliques et de choses comme ça. Une théologie forgée par l'homme. Et avec ça, on s'est retrouvé avec un tas d'églises tout à fait conformes à Laodicée, exactement comme Dieu l'avait prédit. Oh là là, quand je regarde ça, ça me donne des frissons. Fécondé par des conceptions intellectuelles. Il faut être diplômé d'une école secondaire avant même de pouvoir y entrer. Il faut avoir passé devant un psychiatre avant de pouvoir être ordonné. Pouvez-vous vous imaginer Pierre, Jacques et Jean qui se présentent chez un psychiatre? Vous vous souvenez des 120 là-haut qui ne savaient même pas signer leur nom? Passer devant un psychiatre pour voir s'ils avaient de bons réflexes et ainsi de suite. Ils avaient un réflexe, mais ils ne correspondaient pas à la conception intellectuelle ni à la recherche scientifique. Ils venaient de la puissance de Dieu. Quand elle descendait sur eux, ils ne savaient rien faire d'autre que d'exécuter ce que le Saint-Esprit avait dit. Ils ne prêtaient aucune attention à quoi que ce soit d'intellectuel, à ce que l'Église disait, ni à ce que les prêtres disaient, à ce que celui-ci disait, celui-là disait. Ils étaient animés par l'Esprit, des hommes sans peur. Dans 1 Jean 2,15, il a dit « Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. » Voyez? Alors, comment pouvez-vous être fécondé par la parole de Dieu qui condamne le monde, qui condamne Hollywood, qui condamne toutes ces modes, qui condamne toutes ces soirées, cette débauche et tout ce qu'ils font sous le couvert de la religion? Elle condamne ces choses. Comment la parole peut-elle féconder une personne? Comment une femme aux cheveux coupés, au visage fardé et qui porte des shorts? Comment un prédicateur qui va au séminaire, qui regarde Actes 2.38 et qui voit qu'il n'y a pas une seule personne dans la Bible qui ait jamais été baptisée dans ces titres, il va quand même déclarer qu'il est fécondé par la parole de Dieu? Il vous dit un mensonge. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a commis adultère envers la chose même qu'il a déclarée. Il a été répudié. Il y a eu divorce. Dieu aura une église vertueuse, parfaitement, une épouse. La Bible dit, la parole n'est pas en vous. Alors, quelle espèce d'enfant produisez-vous? Les enfants d'une fécondation dénominationnelle. Il n'y a pas eu de mort pour vous séparer de votre premier amour. Qu'est-ce que les Jones vont penser si je me mets à crier et à parler en langue? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je me fais rebaptiser? Quel non-sens! Êtes-vous marié aux Jones? Êtes-vous marié à l'Église? Ou êtes-vous marié à Christ, la parole? Or, c'est pour cette raison qu'elle produit encore ses enfants. Quelle espèce d'enfant a-t-elle? Voici quelques-uns des noms qu'on leur donne aujourd'hui. Chat, Beatles, Monstre, Ricky, Ricketta. Ces chats, ces Beatles, ça ce sont des membres d'Église, bien sûr. Ce sont tous ses fils, les fils de Caïn, qui sont les fils de l'animal rusé. Et ils sont mielleux au possible. Maintenant, pendant un moment, examinez bien votre âme, en vous servant de vos yeux spirituels. Regardez bien autour de vous. Je parle à tout le pays maintenant. Prenez seulement quelques minutes pour regarder. Vous qui êtes là-bas, au Branham Tabernacle, vous qui êtes dans les tabernacles de la côte ouest, et en Arizona, et où que vous soyez, examinez-vous pendant quelques minutes. Vous dites, ce message que vous prêchez, frère Branham, est faux. Examinez-vous un peu. Laissez le Saint-Esprit sonder votre pensée par la parole, et vous serez d'accord avec le message. Laissez Christ, la parole ointe, sonder votre conscience. Laissez-le entrer en vous. Voyez si c'est vrai ou pas. Et je n'ai mentionné qu'un ou deux points, là, alors qu'il y en a des centaines. Que la femme se coupe les cheveux, est-ce que la Bible donne son accord à ça? Les trois, de baptiser au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, est-ce que la Bible croit, donne son accord à ça? Ça n'existe pas, ça. Que la femme porte des vêtements d'homme, est-ce que la Bible donne son accord à ça? Eh bien, prenez seulement ces trois points-là, alors qu'il y en a des centaines d'autres. Examinez-les à la lumière de la parole de Dieu. Vous dites, « Je suis un membre d'Église. » Caïn l'était aussi. Ève l'était aussi. La Bible prédit que, dans les derniers jours, ce serait la même chose dans Laodicée. Laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience, et vous serez d'accord avec Daniel 5,12. Quand la reine s'est présentée devant Belshazzar, elle a dit qu'elle avait appris qu'il y avait au milieu d'eux un prophète, Daniel, qui dissipait les doutes. Laissez le Saint-Esprit, c'est lui le prophète d'aujourd'hui. Laissez-le, lui, entrer dans votre cœur maintenant même. Examinez les choses par la parole de Dieu. Alors, les doutes au sujet du message se dissiperont entièrement. Il dissipe tous les doutes. Vous constaterez qu'il correspond parfaitement à la parole pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prêcher aujourd'hui le message de Luther. Il en fait partie, mais ce sont les pieds. Vous ne pouvez pas prêcher Wesley. Vous ne pouvez pas prêcher le pentecôtisme. Nous sommes bien au-delà de cela. Ils ont formé une dénomination et ils sont morts. Eux, c'est la tige. La tige est sortie avec la pousse. C'est le premier stade de l'Église. Or ça, ça ne ressemble pas au premier grain qui a été mis en terre, au blé. En deuxième lieu, c'est le pollen qui est apparu. Ça ne ressemble toujours pas au grain. Ça s'en rapproche plus. C'est plus à l'image du vrai grain. Mais les pousses ne ressemblent pas au grain qui a été mis en terre. Ça, c'est sûr. Ce qu'elles sont, c'est un porteur de la vie qui était dans le grain. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont formé une dénomination. Ça cadre avec tous les autres éléments de la nature. Elles sont mortes. Et ensuite, la vie est montée tout droit dans les graines. Il y a toute une série de petites boules accrochées là. On dirait qu'il y a de petits grains dedans. On dirait que c'est du vrai grain, mais ce n'en est pas. Puis, elle passe dans la balle. Et qu'est-ce qu'elle produit? La balle. Maintenant, si vous prenez un grain de blé, quand le blé commence à pousser, comme Jésus l'a dit, le grain de blé. Si vous prenez ce blé et que vous l'ouvrez, détachez-le de la tige, regardez-le, vous dites, nous avons un grain de blé. Attention, c'est exactement comme le grain, mais il n'y a pas la moindre trace de grain là-dedans. C'est la balle. Ça, ce sont les pentecôtistes, au point, comme le dit Matthieu 24:24, que dans les derniers jours, ça séduirait même les élus, si c'était possible. Mais si vous en retirez une à une les feuilles, vous n'y trouverez pas de grain. Le grain est tout au fond, derrière cela, voyez? Et alors, la vie sort de cette dénomination et entre dans le grain. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand le grain commence à croître, à grossir, pour qu'il puisse couvrir quelque chose, alors la dénomination s'en écarte. Pourquoi est-ce qu'une dénomination n'est pas sortie de ceci? Il n'y en aura jamais. C'est le grain. Il ne peut pas aller plus loin. Nous sommes au temps de la fin. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Rester dans la présence du Fils pour mûrir, c'est exact. La parole doit mûrir dans votre cœur pour produire et pour vivre ce dont nous parlons. Oui, monsieur. Alors, vous n'aurez plus de doute si vous laissez le Saint-Esprit vous le révéler, comme la reine l'avait dit de Daniel. Peut-être direz-vous, qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'action de grâce? De quoi est-ce que vous parlez, frère Branham? Il est maintenant 20h45. Vous n'avez pas parlé de l'action de grâce du tout. Quel message de circonstance, à mon avis. Oui, vraiment. Les pères pèlerins étaient très reconnaissants de leur nouvelle vie, alors qu'ils s'étaient séparés des vieilles dénominations anglaises et des credos. Ils ont pu se marier avec la nouvelle parole ointe pour leur âge. C'est vrai, la nouvelle parole ointe de leur âge, pour leur époque. Nous aussi, nous avons de quoi être reconnaissants. Nous qui sommes des pèlerins, comme Abraham, qui nous sommes séparés des choses du monde et de tous nos camarades. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle à tout le pays en ce moment, de tous les credos morts. En vue de quoi? Il nous a séparés et nous a donné accès à un nouveau pays, à un nouveau message pour aujourd'hui. Le pentecôtisme s'est desséché et il est mort, comme Luther, Wesley et les autres. Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises qui se sont liées. Il y a encore de braves gens là-dedans. Il faut qu'ils sortent de là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les sept sceaux du dernier message. Avez-vous remarqué ça? Les sept sceaux. En effet, tous les mystères des sept âges de l'Église étaient scellés de sept sceaux. Les réformateurs n'ont pas eu le temps de faire ça à leur époque. Ils n'ont pas vécu assez longtemps. Mais cette révélation bénie des sept sceaux nous a été ouverte dans ces derniers jours, à partir d'une prophétie qui s'est accomplie en Arizona. L'autre jour, j'ai vraiment demandé à Dieu, « Que veux-tu de moi ici dans ce désert ?» Saviez-vous que Moïse a écrit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament? Certainement. Les quatre premiers livres présentent les lois et tout. La Genèse, l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. Il a écrit l'Ancien Testament. Pour ce faire, il lui a fallu quitter tous ses camarades et ses bien-aimés et aller au désert. Paul a écrit le Nouveau Testament, c'est vrai. Il a écrit l'Épître aux Romains et toutes les autres, là, aux Hébreux, à Timothée et ainsi de suite. Et pour le faire, il lui a fallu se retirer, partir pour l'Arabie, aller au désert pendant 3 ans pour recevoir la révélation de Dieu. Oh, vous dites, mais qu'en est-il de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Eux, c'étaient des scribes qui ont simplement écrit ce que Jésus avait fait. Paul s'est retiré et il a assemblé les éléments de la parole. C'est vrai. Eh bien, alors, regardez, s'il a fallu ça, qu'ils aillent au désert, loin de leur bien-aimé. Vous souvenez-vous de « Monsieur, quelle heure est-il ? » Combien l'ont déjà entendu ? Dites « Amen ». Est-ce que c'était tout à fait exact ? Donc, en ces derniers jours, nous avons reçu la révélation par laquelle le message du Seigneur Dieu rassemblera son épouse. Ce qui n'avait été promis à aucun autre âge, cela a été promis à cet âge-ci. Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, Joël 2, 38. Ces promesses correspondent parfaitement. Comme Jean-Baptiste s'était identifié dans l'Écriture, Jésus s'était identifié. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À mort un tel individu! Jean, c'est un barbare! L'Église ne pouvait pas recevoir cela. Voilà le modèle. Et aujourd'hui non plus, l'Église ne pourra pas le recevoir. Mais aux élus, Dieu lance son appel. Aux élus, ils le reconnaissent. Il appelle l'épouse vertueuse, la parole, l'Église des derniers jours, la dame élue de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole. Si Jésus est la parole, combien croient ça? Très bien. Alors, puisque l'épouse est toujours une partie de l'époux, donc l'épouse ne sera pas une dénomination. Elle devra être la parole manifestée pour être l'épouse de Christ. Il a promis de le faire. Il a dit comment il le ferait. Il n'utilise, ne s'éloigne jamais du modèle qu'il a établi. Il l'a toujours fait en suivant le modèle. Il l'a fait chaque fois en suivant le modèle. Et il le fait de nouveau, dans les derniers jours. Il appelle son épouse vertueuse à sortir, la belle Rebecca, qui attend son Isaac. Quel moment magnifique! Ceci met en lumière les deux livres qui vont vous sembler mystérieux quand vous lirez le livre des 7 âges de l'Église. Les deux livres, le livre de vie, dont on dit, l'un dit qu'on peut y inscrire son nom, dont on ne pourra jamais être effacé. L'autre dit qu'on peut ôter son nom du livre de vie. Ceci met la chose parfaitement en lumière. Je vais peut-être m'arrêter quelques minutes sur quelques notes que j'ai ici pour toucher ce point-là avant de terminer. Pour Dieu, la vie est une chose sacrée et elle est enregistrée dans un livre. Dieu est l'auteur de la vie. Croyez-vous ça? Notre vie naturelle, celle que nous avons ici, n'est qu'une perversion. En réalité, il faudrait qu'elle corresponde à ce que la vie doit être au départ. Mais elle est pervertie par la naissance naturelle. Lors de votre première vie ou de votre première union à votre naissance, vous êtes devenu participant de celle-là par la nature, par un acte naturel. Un être humain naturel, par une relation, un homme et une femme ont eu ensemble une relation sexuelle. C'est ce qui a produit votre première vie ici, et celle-là est liée au péché et à la mort. Comment pouvez-vous ne pas voir la semence du serpent? Quand vous voyez la femme, un produit dérivé, il n'y a pas d'autre femelle comme elle. Elle a été faite comme ça, justement, afin qu'elle puisse être séduite. Dieu savait. S'il ne connaissait pas la fin dès le commencement, alors il n'était pas Dieu. S'il n'est pas infini, il ne peut pas être infini sans être omniscient, omniprésent, sans savoir toute chose, sans être éternel. Donc, il savait toute chose. Et alors, il fallait qu'il fasse cette femme-là. L'homme n'avait pas de femme. La femme et l'homme étaient une seule et même chose. Il avait en lui l'esprit féminin et masculin. Il lui a fallu détacher, prendre un produit dérivé, après que toute la création avait été faite. Aucune femelle qui était créée par Dieu lors de la création originelle ne peut faire une chose pareille. Elle a été faite ainsi, pour faire ça. Il savait qu'elle le ferait. S'il ne le savait pas, il n'était pas Dieu. Mais, vous voyez, les attributs qui sont en Dieu devaient être exprimés. Il devait être un sauveur. En faisant toutes choses parfaitement, comme il les avait faites, alors rien ne pouvait être perdu. Oh, ne soyez pas des enfants. Soyez des hommes et des femmes. Nous sommes au bout du chemin. Remarquez. Donc, c'était une nature liée à la mort. Votre premier mari, qui dominait sur vous, c'était votre nature, par votre naissance naturelle. Par nature, vous aimez le monde, parce que le monde, c'est vous, que vous faites partie du monde. Pas vrai? Vos désirs, par nature, c'était d'aimer le monde, dont vous faites partie. Vous faites partie de la nature. Croyez-vous ça? Alors, par nature, c'est ce qui vous plaît. C'est pour ça que vous devez naître de nouveau. Vous devez vous séparer. Vous devez mourir à ce premier mari. Vous ne pouvez pas vivre avec lui. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, « Eh bien, je vais divorcer d'avec lui. Je vais me défaire de lui en attendant. » Non, monsieur, pas de lettre de divorce. Qu'il meure. La nature du monde doit mourir. Chaque parcelle de lui doit mourir. Vous devez vous unir de nouveau avec une autre nature. Votre nom de votre première nature est né et a été inscrit dans un livre de vie. Et toutes vos actions aussi, elles y ont été inscrites. Tout ce que vous avez fait de par cette nature-là a été inscrit dans un livre appelé le livre de vie. Remarquez, dont Daniel, quand il s'est avancé vers l'Ancien des Jours, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine, des myriades de myriades l'accompagnaient pour le servir. Là, l'épouse. Et alors les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie. Voyez, il y a des saints qui y sont déjà, l'Église, l'épouse, un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie. Maintenant, vous, mais quand vous vous êtes dégagé de cette union par une mort spirituelle, votre désir naturel, c'est de vous couper les cheveux. Votre désir naturel, c'est de porter des shorts, de vous maquiller. Votre désir naturel, c'est d'être intellectuel, un homme intelligent, de savoir quelque chose de plus que l'autre. C'est ça qu'Ève voulait. C'est exactement ça qu'elle voulait. Hé, dis donc, espèce de minable, de prédicateur à la gomme, tu vas venir m'en apprendre? Moi, j'ai un doctorat en droit. Chaque fois que vous en ajoutez un, ça ne fait que vous éloigner encore plus de Dieu. Voyez? Voyez? C'est exact. C'est vrai. Voyez, c'est ça qu'Ève a choisi. Elle a été fécondée avec ce genre de fécondation-là. Et c'est le cas de l'Église aujourd'hui, avec les instituts bibliques et l'intellectualisme. Regardez, et chacun est en désaccord avec l'autre. Un super méli-mélo, exactement ce que la Bible dit, Babylone. L'épouse sait à quoi s'en tenir. Elle est très peu nombreuse. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront sauvés, seulement très, très, très peu. Vous dites, eh bien, il est dit là, des milliers. Oui, mais ils sont sortis tout au long des 2000 ans, de chaque âge d'où elles provenaient. Chaque. L'âge de Luther et ce groupe-là, ils sont morts les uns après les autres. Après quoi, les gens formaient une dénomination. Ensuite, Wesley. Ensuite sont venus les pentecôtistes, et ainsi de suite. Toutes les petites ramifications, les baptistes, les presbytériens, les méthodistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et ainsi de suite. Vous voyez, tous ceux-là se sont ramifiés à partir de là. Comme le fait la feuille. Mais souvenez-vous, quand elle se fane et que le grain commence à mûrir, ce qu'on constate, c'est qu'avant que ce grain mûrisse, tout ce qui était dans cette tige doit être mort. Alléluia! Vous voyez où nous en sommes, n'est-ce pas? La vie est de nouveau dans le grain. Qu'est-ce? Exactement comme ce même grain qui a été mis en terre. Le même Jésus sous forme de l'épouse. La même puissance, la même Église, même chose, la même parole. La même parole qui a fait son chemin à travers toutes ces choses et qui est montée jusque-là. Elle arrive à maturité ici. Et toute cette vie qui est montée là-dedans, au passage, elle a saisi son peuple. Et maintenant, elle arrive à maturité, à la tête, pour l'enlèvement. Je parlerai de ça demain soir ou le soir suivant, l'un des deux, si le Seigneur le veut. Bon, donc, vous vous êtes dégagé de votre première union par une mort spirituelle. Maintenant, vous êtes né de nouveau ou remarié par une nouvelle union spirituelle. Il ne s'agit pas de votre vie naturelle, des choses du monde, mais de la vie éternelle. Ce germe qui était en vous au commencement vous a retrouvé. Maintenant, votre vieux livre s'en est allé avec votre vieille union. Maintenant, votre nom dans votre vieux, dans votre, a été reporté. Alors, vous me direz, est-ce que vous voulez dire par là que mon vieux livre, Dieu l'a jeté dans la mer de son oubli? Vous êtes parfait devant Dieu. Or, votre nom est maintenant dans le nouveau livre, non pas dans le livre de vie, mais dans le livre de vie de l'agneau, pour ceux que l'agneau a rachetés. Pas le vieux livre de votre union naturelle, mais le nouveau pour vous, l'épouse. Alléluia! Votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau. Votre acte de mariage, alléluia! Alors que votre véritable germe éternel du commencement s'implante. Maintenant, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Gloire! Justifié! Romains 5, 1 dit, oui, Romains 5, 1 dit, étant donc justifié par la foi, cherchez le sens du mot. Ce mot ne veut pas dire pardonner. Ce mot veut dire justifié. Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. Par exemple, si vous aviez entendu dire que je m'étais enivré et que j'avais fait de vilaines choses et tout, et que vous veniez ensuite me dire que vous découvriez que je ne les avais pas faites, et que vous veniez me dire, « Frère Branham, je vous pardonne. » Vous me pardonnez? Je n'ai même pas fait ces choses au départ. Voyez? Or, si je les ai faites, je suis coupable. Mais vous pourriez me pardonner. Alors je ne serai plus coupable. Par contre, je ne serai pas justifié pour autant, parce que je les ai quand même faites. Mais le sens du mot « justifié », c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout. Amen. Ça n'entre même pas en ligne de compte du tout. Comment cela peut-il se faire? Dans le livre de Dieu, de la mer de l'oubli, votre vieux livre et votre vieux mariage ont été dissous par divorce et sont morts. Ils ne font même pas partie des souvenirs de Dieu. Amen. Vous êtes justifié, étant donc justifié. Il y avait une accusation. Vous étiez accusé. Vous n'avez même jamais fait ces choses au départ. La vieille union est dans la mer de l'oubli de Dieu. Premièrement, vous n'avez même pas été marié à cet autre. Lui, l'époux, a porté votre honte, lui-même, pour vous, à votre place. Il a pris votre place, car vous aviez été prédestiné à être à lui, à faire partie de son épouse, avant la fondation du monde. La Bible dit, vous êtes la semence prédestinée. Comment en êtes-vous venu à faire ça? C'est par tromperie que vous avez été entraîné là-dedans, à cause de votre premier mariage, de votre parente adultère, Ève. Ce n'est pas votre faute. De par votre naissance naturelle, vous êtes venu d'Ève qui avait commis adultère. C'est pour ça que vous êtes né adultère. Vous êtes un pécheur au départ. C'est vrai. C'est par tromperie que vous avez été entraîné là-dedans. Vous n'aviez pas. Non, vous, ce n'est pas votre faute. Vous ne l'avez jamais fait. En effet, ce petit germe qui était en vous, c'est ce que vous étiez destiné à être avant la fondation du monde. Dieu avait inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est comme mon histoire du petit aigle, que vous avez tous déjà entendu. Une poule, un vieux fermier, à un moment donné, il faisait couver une poule. Alors, comme il n'avait pas assez de poules, deux, à mettre sous la poule, alors il a trouvé un œuf d'aigle, et il l'a mis sous elle. Quand l'aigle est né, c'était le poulet le plus bizarre que ces poulets aient jamais vu. Et ce petit aigle suivait. La poule faisait « cote, 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 cote ». Le petit aigle se disait, « Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, mais je vais quand même la suivre. » Ils allaient dans la basse-cour, et ils se mettaient à gratter dans les tas de fumier. Elle faisait, « Cote, 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 c'est bon, viens te joindre à nous. » Et c'est ce que... Le petit aigle, il ne pouvait pas manger de cette pâture-là. Voyez, il suivait simplement les poulets, parce qu'il ne savait pas, il ne savait pas quoi faire. Et puis, elle allait là-bas, et elle attrapait ceci ou cela. Le petit aigle, simplement, il était obligé d'avaler ça, mais il ne savait pas comment faire. Mais il avait vu tous les poulets qui agissaient comme ça. Mais lui, ce n'était pas pareil. Lui, il n'aimait pas ça. Alors, un jour, sa mère savait qu'elle avait pondu deux œufs. Alors, elle est partie à la recherche de l'autre. Elle a volé dans les alentours. Elle cherchait, comme le fait le grand Saint-Esprit. Un jour, elle a volé au-dessus de la basse-cour de cette dénomination. Elle a regardé en bas, elle a vu son petit, elle a poussé son cri. C'était la voix de quelque chose qui résonnait en lui. Oh, ça sonne juste ça. Oh, un germe né qui a vraiment été prédestiné par Dieu, qu'il entende une fois la parole de Dieu. Et pour lui, c'est de la musique. Il sait que c'est la vérité. De toute manière, il en a assez de cette pâture dénominationnelle. Joins-toi à nous, viens avec nous. On a une rencontre sociale, on a ceci, on a... Ça ne sonnait vraiment pas juste pour le petit aiglon. Elle a dit, « Fiston, de toute manière, tu n'appartiens pas à ce groupe-là. C'est à moi que tu appartiens. Tu es à moi. » Il a dit, « Maman, ça me paraît réel. Comment vais-je faire pour sortir d'ici? Tu n'as qu'à sauter, je vais t'attraper. » Oui, c'est tout ce que vous avez à faire. Quand la parole ointe de Dieu sera confirmée devant lui, tout homme qui est né pour être un fils de Dieu, qui a en lui le germe prédestiné pour cette heure-ci, verra le message de Dieu, aussi sûr qu'il y a un Dieu dans le ciel. Martin Luther a vu celui de son heure. Wesley a vu celui de son heure. Le pentecôtiste a vu celui de son heure. Maintenant, qu'en est-il de vous? Voyez, Ils ont formé une dénomination. Voici, la parole condamne ça. Elle vous dit ce que nous devons avoir aujourd'hui, parfaitement. Malachie 4 et toutes les autres promesses qui s'appliquent à cette heure. Que voyez-vous? Que regardez-vous? Amen. Nous en sommes là. Les vrais aigles, authentiques, ils entendent. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Pourquoi? Cela a été mis à l'intérieur par prédestination. Vous avez été prédestinés à être fils de Dieu. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Vous êtes seulement manifesté en ce jour pour son honneur et sa gloire. Comment pouvez-vous le faire sans honorer sa parole, sans vous tenir à chaque parole de Dieu? Oui, monsieur. Et vous êtes une partie de cette parole par prédestination, parce que, regardez, Dieu est la parole. Vous le croyez? Eh bien, alors, si, il a toujours été la parole. Au commencement était la parole. Et si la parole était Dieu, alors vous étiez en Dieu. La parole, le rôle que vous devez remplir, était en Dieu avant la fondation du monde. Il vous avait vu, il vous connaissait, il vous avait prédestiné à ça. Je vous le dis, de même que cet aigle a reconnu cette voix, un vrai chrétien né de nouveau aussi, il reconnaît la voix de Dieu qui parle à travers la parole. Quand il la voit, ointe et confirmée. Regardez, il a regardé là-haut. Il n'y a pas vu cette vieille poule qui faisait « cote-cote par ici, joins-toi à nous et viens ici, va vers ceci et va à ceci et à cela ». Il a vu un être qui correspondait à ce qu'il désirait être, qui planait dans les airs, qui trompetait libre dans les hauteurs, au-dessus de tous les vautours et de toutes les choses de la terre. Alléluia! C'est ce qu'il désirait être, parce qu'il y avait en lui ce qu'il fallait pour être cela. Et un homme qui est né de Dieu, un fils de Dieu, doit avoir la nature de Dieu. Il doit être comme Dieu. Il honore Dieu. Il est une partie de la parole de Dieu. Et en ces derniers jours, où cette épouse est en train de prendre forme, alors que la puissance même dont il était revêtu au commencement, que cette même puissance a traversé ses organisations et ainsi de suite, et qu'elle s'est manifestée pour l'épouse, il ne peut être rien d'autre que cela. Ils auraient dû reconnaître ce qu'il en était, les Juifs de l'époque, quand ils ont vu cela manifester en plein devant eux. Il était tel que le prophète l'avait annoncé. Il a dit, « Sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais même si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que j'ai faites. » Ils ont dit, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Nous savons à quoi nous en tenir. » Il a dit, « Et ils sont tous morts, c'est-à-dire éternellement séparés. Tous, ils sont morts. Il n'y en a eu que 3. » Que 2 sur 1 million, ou plutôt sur 2 millions, c'est-à-dire 1 sur 1 million. Eh bien, lors d'une insémination, dans le sperme du mâle et de la femelle, il y a généralement un seul ovule fécondé. Il y a un seul ovule, un seul germe qui est fécondé, si vous avez déjà vu comment se fait l'hybridation du bétail. Remarquez, ici, il y a un million d'ovules. Ici, il y a 1 million de germes. Et quand ceux-ci sont projetés pour qu'ils se réunissent dans l'utérus, qu'ils passent dans la trompe pour pénétrer dans l'utérus, où ils se rencontrent. D'un côté, il y a les ovules. 1 million d'ovules, 1 million de germes. Il n'y a là qu'un seul ovule fécondé. Il n'y a qu'un seul germe fécondé. Ils sont tous vivants. On peut observer les petits veaux qui s'agitent là. Une toute petite goutte qu'on pourrait mettre sur la tige d'une allumette. Demos et les autres sont à l'écoute ce soir. Elle se souvient de la fois où nous les avons emmenés, où il m'a emmené là-bas pour me montrer comment ça fonctionnait. Des éprouvettes dans lesquelles ils ont recueilli juste de quoi mettre sur le bout d'une allumette. Il y avait des milliers de petits veaux et de petits taureaux là-dedans. Mais il n'y a qu'un seul d'entre eux qui pourra vivre. Un seul d'entre eux. Et il y en a tout un peloton ici. Mais on peut en remarquer un qui va se faufiler en sortant du groupe qui est ici. Il va passer par-dessus. Ce germe va venir par ici. Et un ovule va sortir du milieu des autres ovules qui se trouvent ici. Et ils vont s'unir. Et tous les autres meurent. Pourtant, ils sont vivants, mais ils meurent. En effet, il y a quelque chose. Quelqu'un a rendu celui-ci fécond et a décrété que celui-ci le serait aussi. C'est la prédestination, mon frère. Bien sûr, c'est Dieu qui doit décider si ça va être un garçon ou une fille, aux cheveux roux, aux cheveux noirs ou autre. C'est Dieu qui en décide. C'est plus mystérieux pour moi qu'une naissance virginale. Mais remarquez, tous les autres meurent. 2 millions de gens étaient sortis. Ils avaient chanté, poussé des cris, fait tout le reste. Ils avaient parlé en... Non, ils n'avaient pas parlé en langue, mais ils avaient poussé des cris et donné gloire à Dieu et dansé de long en large au bord de la mer. et fait tout ce que les autres faisaient. Mais il n'y en a que deux qui sont entrés dans le pays promis. Caleb y est entré, Caleb et Josué, seulement deux, c'est-à-dire un sur un million. Il y en a un sur un million de la naissance naturelle. Ils avaient tous reçu la même bénédiction. Oh, vous les pentecôtistes, j'espère que vous ne vous réveillerez pas trop tard. Un sur un million. Regardez, il est censé y avoir 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde aujourd'hui. Si Jésus venait, il n'y en aurait que 500 qui partiraient avec lui. Dans ce cas, si cette statistique est juste, eh bien, il y en a plus que ça qui disparaissent chaque jour dans le monde, sans qu'on en sache rien. Je comprends, ont dit les scribes. Vous savez que, pourquoi les scribes disent que qu'Élie doit venir premièrement? C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Il a dit, Élie est déjà venu, et vous ne l'avez pas su. Voyez, il a agi exactement selon ce que les Écritures avaient annoncé à son sujet. Voyez. De même, le Fils de l'homme devra souffrir. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, ils faisaient tous partie de l'Église. Ils prétendaient tous être vivants. Laissez un vrai chrétien né de nouveau, un vrai serviteur de Dieu, entendre cette parole de Dieu. Et il sortira sans hésiter de toutes les dénominations pour venir dans ce terrain vraiment fertile de la parole, dans le terrain d'ensemencement. Il le fera. Un point, c'est tout. Je ne sais pas par quel processus il le fait. Mais Dieu a décrété que c'est ce qui se produirait. Vous étiez séduit au commencement à cause de votre premier mariage. Maintenant, vous savez ce qui est vrai. C'est comme ce que je disais du petit aigle. Quand il a entendu la voix de l'époux, il est allé vers elle. La parole de Dieu des derniers jours, ointe et confirmée. Noé était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous ça? Eh bien, son message ne marchera pas aujourd'hui. Moïse était la parole confirmée de son temps. Croyez-vous ça? Ça ne marchera pas maintenant. Jésus était... Jean était la parole confirmée. Croyez-vous ça? Ça n'aurait pas marché du temps de Jésus. Certainement pas. Non, monsieur. Jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Depuis lors, c'est le royaume de Dieu. Les apôtres, c'est eux qui ont rédigé la Bible. Voilà Luther qui arrive avec la réforme. Ses paroles, là, son église. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus, celle des pentecôtistes non plus, ça marchait à leur époque. Mais ceci est une autre époque. C'est maintenant l'ouverture des sept sceaux. Je sais que cela peut vous sembler bizarre, mais Dieu l'a confirmé de façon tellement parfaite. Ça ne fait aucun doute, de façon absolument parfaite. Je ne lance pas ça dans l'assemblée locale d'ici. Je parle aux gens qui sont partout dans le pays, voyez. Faites-en ce que vous voudrez. Maintenant, remarquez, la parole ointe de son époque, dont vous êtes une partie par prédestination, c'est comme si, instantanément, vous l'aviez su. Quand vous avez entendu cela, vous l'avez su tout de suite, que vous étiez un aigle. Vous vous êtes aussi rendu compte que vous n'étiez pas, au départ, un poulet dénominationnel. Vous saviez qu'il y avait quelque chose qui clochait là-bas. Il y a quelque chose qui cloche, c'est exact, car vous savez que vous avez été piégé là-dedans, au commencement. Lui, l'époux, a effacé votre honte et l'a mise dans la mer de l'oubli par le lavage de l'eau de la parole et par le sang de la vie. C'est ce que la Bible dit. Votre premier mari auquel vous étiez marié, le monde, l'époux oint qui vous avait prédestiné, vous a lavé par le lavage d'eau, par l'Église. Ça ne sonne pas juste ça, n'est-ce pas? Vous pourriez peut-être trouver ça dans l'almanach, mais pas dans la Bible de Dieu, par le lavage d'eau, par la parole, dans la parole, voyez? Par, vous vous tenez là entièrement justifié, comme si vous ne l'aviez même jamais fait au départ. Voici mon message à l'Église maintenant, alors que nous allons terminer la retransmission dans un instant. Vous vous tenez, si vous vous tenez sur la parole de Dieu et à la parole de Dieu, à chaque « Amen », chaque « Iota », chaque trait de lettre. Alors, quelle est votre position? J'essaie de vous dire de vous écarter de cette balle et de venir ici, dans le blé, où vous pourrez mûrir dans la présence du Fils. J'entends venir la moissonneuse. Vous vous tenez là, entièrement justifié, comme si vous n'aviez même jamais fait ces choses au départ. Alléluia! Vous parlez d'une action de grâce. Je me sens vraiment bien. Je suis plus reconnaissant de ça que de n'importe quoi d'autre. Vous êtes l'épouse du Fils du Dieu vivant, pure, vertueuse et sans péché. Tout homme et toute femme qui sont nés de l'Esprit de Dieu, qui ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ et qui croient à chaque parole de Dieu, c'est comme si vous n'aviez même jamais péché au départ. Vous êtes parfait. Le sang de Jésus-Christ. Comment pouvez-vous, si un homme, si je devais mourir demain matin et qu'un homme prenne ma place, je n'aurais pas à mourir pour ce péché. Quelqu'un aurait pris ma place. De même, Jésus, la parole, a pris ma place. Il est devenu moi, un pécheur, pour que je puisse devenir lui, la parole. Amen. Que je reste fidèle à cela, pas à l'Église, à la parole. Amen. Oh, cette union spirituelle de Christ avec son Église maintenant, alors que la chair devient parole et que la parole devient chair, manifestée, confirmée. Exactement ce que la Bible a annoncé pour aujourd'hui, c'est ce qui arrive jour après jour. Oh, et ça s'accumule tellement vite là-bas dans les déserts, et il se passe tellement de choses que je n'arrive même pas à suivre. Nous sommes près de la venue de Jésus qui doit s'unir avec son Église alors que la parole devient la parole. L'appel du Saint-Esprit qui sonde les cœurs. Vous vous tenez là entièrement. Vous n'avez même jamais péché au départ. Même que Dieu n'en sait rien. C'est dans la mer de l'oubli. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez été accusé de ça par l'accusateur. Mais en réalité, dès le commencement, vous aviez été prédestiné à être fils et fille de Dieu. Vous vous tenez là, lavé, et le vieux livre de votre divorce a été supprimé, et c'est mort, carrément, inexistant, même dans la pensée de Dieu. Vous êtes l'épouse de Christ, vertueuse, lavée dans le sang de Christ. Le précieux Fils de Dieu, vertueux, sans péché, se tient là, avec une épouse parole, pure, sans mélange, qu'il a lavée par l'eau de son propre sang. Il est devenu chair et s'est manifesté pour pouvoir vous prendre, vous qui aviez été prédestinés dans le sein du Père, avant le commencement, tout comme lui l'avait été. Il était ce grand attribut de Dieu, appelé l'amour. Quoi que vous soyez, vous êtes serviteur de Dieu, quelle que soit la chose que Dieu veut que vous fassiez, quelle que soit votre place. Dieu a placé dans l'Église les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs. Il les y a placés en vertu de ce qu'il avait lui-même prédestiné. Et c'est ce que vous étiez dès le départ. Votre premier mariage a été annulé. Oui, vous n'avez même jamais fait ça au départ. En effet, une seule chose a pu avoir cet effet-là. C'est que Dieu lui-même soit descendu prendre votre place sous la forme du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et qu'il vous ait lavé par l'eau, par le lavage d'eau, par la parole. La parole, pas la dénomination, c'est la parole qui vous a lavé. Mais si vous ne voulez pas vous tenir dans l'eau de la parole, comment allez-vous être lavé? Vous êtes encore aussi taché qu'Ève. Oh, cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance jusqu'au jour où l'Église rachetée soit sauvée, à jamais délivrée du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de quoi? La parole. L'incrédulité à l'égard de Dieu, qui est la parole. Pure, sans mélange. Oh, alléluia! Elle partira bientôt vers les cieux. Amen. Elle se tient prête. Pensez-y, vos vêtements lavés par l'eau de la parole ensanglantée. La parole est devenue sang. La parole a saigné pour vous, et vous êtes lavé dans une parole ensanglantée. La parole qui saigne. La vie de Dieu dans la parole, et la parole a saigné pour vous, afin que vous soyez lavé de la souillure de ces prostituées, que vous soyez purifié et sanctifié par le lavage de l'eau de la parole. Et grâce à cela, votre esprit et votre cœur s'appuient fermement sur Dieu et sur sa parole. Or, comment savoir qu'elle est vraie quand Dieu descend la confirmer et la prouver? Vous dites, « Eh bien, moi, je ne le croyais pas de cette manière-là. » Il ne le croyait pas à la manière de Jésus, mais Dieu l'a prouvé. Il ne le croyait pas à la manière de Noé. Il ne le croyait pas à la manière de Moïse. Ils étaient prêts à croire Balaam sur parole. Nous sommes tous pareils, alors unissons-nous. Séparez-vous, dit la Bible, de l'incrédulité. Alléluia. Maintenant, remarquez, vous, ça ne s'arrête pas là. Vous irez aux noces, dans le ciel, et vous portez l'anneau de mariage, de la grâce prédestinée et imméritée. Un anneau de mariage, la grâce imméritée de votre part. C'est Dieu qui a accompli ça lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Alors c'est là qu'il vous a passé au doigt l'anneau de mariage, qu'il a inscrit votre nom sur le livre. Oh, quelle action de grâce! Alléluia! Louange à notre Dieu! Maintenant, pour conclure, je dirai ceci. Nous savons tous que l'Église contemporaine, pentecôtiste, dans son état actuel, et j'inclus toutes les dénominations, je les mets toutes dans un même paquet parce qu'elles y sont. Souvenez-vous, il va d'abord lier les mauvaises herbes en gerbes et les brûler. Il prend d'abord toutes les tiges du blé et les brûle. Puis il vient prendre son blé et l'emporte à la maison. Elles se rassemblent toutes en gerbes, une gerbe de méthodistes, de baptistes, de pentecôtistes, alors qu'elles s'en vont toutes dans le conseil œcuménique. C'est tout. Elles sont toutes à brûler, voyez? Nous savons tous que l'Église contemporaine, dans son état actuel, dans sa condition actuelle, n'est pas du tout en état de mener à terme la grande commission que Dieu a donnée à l'Église pour aujourd'hui. Combien de pentecôtistes peuvent dire « Amen » à ça? C'est vrai, voyez? Elle est « Nous sommes unitaires, binitaires, trinitaires, ceci, cela ou autre chose. Nous nous chamaillons, nous nous disputons. L'un est ceci, l'autre est cela et autre chose. » Et tous, sans exception, ils ont peur de regarder la parole en face et de subir le test, voyez? Ils savent, vous leur en parlez, elles disent, je n'y peux rien, je ne peux pas croire ça, peu m'importe ce qu'il fait, voyez, ça montre quelle maman et quel papa vous avez. Vous pourriez être surveillant général un jour, vous pourriez être ceci, cela ou autre chose. Vous feriez mieux d'être un fils de Dieu. Or, nous savons que l'Église ne pourrait, que l'Église pentecôtiste ne pourrait en aucun cas, mener à bonne fin le message des derniers jours, dans l'état où elle se trouve actuellement. Le pourrait-elle? Voyons, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur une ou deux paroles de la Bible. Comment le pourrait-on? Elle ne le peut pas. Alors, vous voyez, la dénomination, c'est hors de question. C'est vrai, ce sera un peuple élu, qui a été élu pour ça. Voyez? Maintenant, sachez, et ça aussi, nous le savons tous, que tout le système des dénominations, le pentecôtisme et tout le reste, c'est mort. Et ça, pour le chrétien du message, qui est né de nouveau. Oui. Votre premier mari est mort. Vous savez qu'il est mort. Dieu l'a laissé mourir. Il est fini. Toutes ces manières scientifiques, intellectuelles, pédagogiques, scientifiques, de ces instituts soi-disant bibliques, et toutes ces choses ont péri. Qu'est-ce qu'elles avaient produit? La division, les unitaires par ici, ceux de la Trinité par là, les binitaires ici et par là, un gâchis pareil, alors qu'ils se donnent le nom de pentecôtistes. Tenez, l'autre jour, je suis allé voir un jeune homme, il est à l'écoute maintenant même, et une jeune femme qui faisait partie d'une certaine église. Elle disait, j'ai dit, ils s'étaient séparés. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, nous n'avons pas la même croyance. J'ai dit, oh, je suis désolé, êtes-vous catholique? Elle a dit, non. Elle m'a nommé l'église dénominationnelle dont elle faisait partie, une église pentecôtiste. J'ai dit, et vous? Lui aussi était pentecôtiste, mais d'une autre dénomination. Oh, savez-vous que l'église catholique romaine, au début, elle était pentecôtiste? Combien savent que c'est vrai? Ça lui a pris 2000 ans pour en arriver là où elle en est maintenant. Au point où elle n'accepte plus rien de l'Écriture. Rien. Eh bien, les pentecôtistes, dans 20 ans, ils seront encore plus mal en point que le sont maintenant, du train où vont les choses. Voyons, c'est sûr. Voyez, qu'en est-il? Regardez, qui sont leurs papas et leurs mamans? Ils laissent les femmes se couper les cheveux. Elles peuvent faire pratiquement tout ce qu'elles veulent, pourvu qu'elles fassent partie de l'Église. C'est tout ce qu'il faut. Oh, ce n'est pas étonnant que la condamnation de Dieu atteigne sa pleine mesure. Dieu a présenté cela en plein devant vos yeux. Et vous fermez les yeux pour ne pas le regarder. Oui. Vous fermez votre cœur alors que vous voyez la véritable parole de Dieu et les sept sceaux qui ont été confirmés et dont la vérité a été prouvée, attestée dans les cieux, dans tous les pays, partout ailleurs, par les grands signes et les prodiges qu'il avait promis d'accomplir. Et vous, vous vous fermez à ça et vous dites, je ne sais vraiment pas, je n'y peux rien, voyez, oh là là, ils sont morts et ils ne le savent pas. Par vos péchés et par vos offenses, vous êtes morts. Oh là là. Nous savons tous que l'Église, dans cet état-là, ne pourrait pas mener à terme ce dernier jour. Comment pourrait-elle introduire Malachi 4? Comment le pourrait-elle? Ils n'y croient même pas. Comment pourrait-elle croire, introduire Luc 17:30? Comment pourrait-elle introduire tous les autres passages de l'Écriture qui ont été promis pour ce dernier jour? Elle ne le pourrait pas, puisqu'elle les nie. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Regardez l'état dans lequel était Lot, était Sodome en ce temps-là. Regardez l'état de l'Église de ce temps-là. Regardez ce qui est arrivé à Abraham, l'élu. Regardez ce qui est arrivé à Lot et à ceux qui étaient à Sodome. Regardez Billy Graham, Oral Roberts et les autres qui sont là-bas au sein de ces dénominations. Regardez l'Église élue d'Abraham qui s'est retirée de là. Regardez quel genre de signe Jésus lui-même, le Dieu incarné, qui se tenait là dans une chair humaine. Vous dites, c'était un ange. La Bible dit que c'était Dieu. Le Seigneur Dieu, Elohim, qui se tenait là, dans une chair humaine, montrant qu'il oindrait tellement son Église dans les derniers jours. Ce serait Dieu qui agirait de nouveau dans une chair humaine. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le même genre de choses, il le voit en plein là, dans les Écritures. Lisez-les, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de ceci. Voyez, voyez. Donc, nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a laissés mourir dans leur égoïste programme scientifique pédagogique. Tous les pentecôtistes, autrefois, vous auriez parlé d'envoyer votre enfant en pension à l'Institut biblique, du temps où le vieux frère Loat et les autres étaient ici, et ils vous auraient mis à la porte de l'église. Mais oh, maintenant, c'est quelque chose de formidable, ça. Mon fils est en pension à l'Institut biblique. Il est en train de creuser sa tombe. Alors, maintenant, pensez-vous qu'il pourrait accepter ceci aujourd'hui? Pensez-vous que je cherche à encourager l'ignorance? Ce n'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une différence entre cet âge intellectuel où nous vivons actuellement, où l'Église a été fécondée par la science et par toutes ses soi-disant conceptions et tout. Votre intellect ne peut pas concevoir Dieu. Eh bien, ces sacrificateurs, la conception qu'ils s'étaient faite de Dieu, c'était tellement parfait qu'ils savaient de quelle manière le Messie allait venir. Mais il est venu d'une manière tout à fait différente de la conception qu'ils s'en étaient faite. Ça n'avait rien de scientifique. Comment cet homme, qui est un enfant illégitime, où est-il allé à l'école? Où a-t-il reçu son instruction? D'où lui vient ce savoir? Comment? Tu veux nous enseigner à nous? Tu es né dans la fornication, voyez? Oh, miséricorde! Voyez-vous que la même chose se répète? Voyez-vous que la chose se répète? Ils sont tous absorbés dans leur science religieuse. Leur science religieuse axée sur ce que dit leur institut biblique. Et c'est de cette manière qu'ils veulent que cela se passe. Il faut que cela se passe de cette manière, sinon ce n'est pas ça. Ils se font avoir par Dieu chaque fois. La chose se produit toujours autrement. C'est ce qui est arrivé du temps de Noé, ce qui est arrivé du temps de Moïse, ce qui est arrivé du temps de Christ, ce qui est arrivé du temps de Jean, ce qui est arrivé du temps des disciples, ce qui est arrivé du temps de Wesley, ce qui est arrivé du temps de Luther, ce qui est arrivé du temps des pentecôtistes. Et c'est ce qui est arrivé de nouveau. Le modèle ne change pas. C'est toujours la même chose qui se produit. Il n'y a eu que des réformateurs au cours de ces 7, de ces 6 âges, jusqu'au 7e. Et Apocalypse 10 dit qu'à cette heure-ci, il y aurait un changement. Et il y en a eu un. Maintenant, pour conclure, nous dirons ceci. Mener à terme la grande commission, comment le pourrait-il? Nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a laissés mourir dans cet âge scientifique, tous pour... Pour qu'il puisse faire quoi? Dévoiler le mystère des 7 sceaux à l'épouse non dénominationnelle. Comment une dénomination pourrait-elle accepter les 7 sceaux alors que ceux-ci vont carrément à l'encontre? La semence du serpent et toutes ces autres choses, tous les 7 mystères en entier sont contraires à l'enseignement qu'elles ont reçu parce qu'elles ont accepté la vieille école de leur institut biblique. Et les 7 sceaux de Dieu, alors qu'ils ont été ouverts, là, sur la montagne, que Dieu me fasse mourir à l'instant même, à cette chair, si ce n'est pas la vérité. Et je vous l'avais annoncé d'avance, 1 an et 6 mois avant que ça arrive, ce qu'il m'avait dit, va en Arizona, et ce qui arriverait là-bas dans le désert. Il y a des hommes assis ici ce soir, qui étaient présents là-bas, quand les 7 anges sont descendus. Et même le magazine Life a publié l'article là-dessus. C'était là-bas, à l'observatoire et tout. Là, ils ne savent même pas ce qu'il en est. Et tout ce qui a été dit, oh, même la destruction de la Californie, qui va bientôt avoir lieu, et toutes ces autres choses. Et je leur avais dit dans combien de jours ça arriverait, et comment ça se passerait, là-bas, qu'il y aurait ce grand tremblement de terre en Alaska, que ce serait le commencement du signe du temps, et ce qui allait se produire. Et mot pour mot, ce qu'il avait dit, pas une seule fois cela n'a failli. Vous n'avez jamais vu cela faillir. Et cela ne peut pas faillir, parce que ce sont les paroles de Dieu. et le ciel et la terre passeront, mais cela ne peut pas faillir. C'est vrai, Dieu devait ouvrir ses sept sceaux, non pas dans une dénomination. J'ai toujours été contre ça, mais en dehors de la dénomination, pour qu'il puisse prendre une épouse, pas une épouse dénominationnelle. Il ne le pourrait pas, c'est contraire à sa propre parole. Il a dévoilé ces sept mystères qui y étaient contenus. Ceux-ci mettent en lumière, font émerger les choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde et qui devaient être révélées dans les derniers jours au Fils de Dieu. Ils ont maintenant fait émerger cela devant les gens pour qu'ils voient ce qu'il en est. Voilà, vous y êtes. Cela s'adresse à cette épouse non dénominationnelle. Oh là là, voilà vos deux livres. L'un est le livre de vie de l'agneau. Dans celui-là, votre nom a été prédestiné à y être. Il ne peut pas disparaître de là. En effet, il n'y a absolument aucun moyen de l'ôter de là, vous voyez, parce qu'il a été prédestiné à y être. Mais dans le livre de vie tout court, il peut être ôté de là n'importe quand. Voyez, si vous ne vous repentez pas, de toute manière, il en est ôté, parce que vous allez passer en jugement. L'épouse ne passe même pas en jugement, elle part dans l'enlèvement. Tout comme, je dirais ceci pour conclure, il se fait tard, il est presque 21h30. Nous serons sortis d'ici 21h30, si le Seigneur le veut. Soyez vraiment respectueux maintenant, écoutez. Une fois, je dis ceci maintenant, et c'est diffusé d'un bout à l'autre du pays. Maintenant, à New York, il est 23h25. Tout là-bas, à Philadelphie, et dans cette région, les saints bien-aimés de là-bas sont à l'écoute, dans des églises, un peu partout. Tout là-bas, au sud, près du Mexique, tout là-bas, au Canada, et un peu partout à travers le pays, presque tous les 300 kilomètres, partout à l'intérieur du continent nord-américain, il y a des gens qui sont là, à l'écoute en ce moment, des milliers de milliers à l'écoute. C'est mon message pour vous, l'Église, vous qui formez une union spirituelle par la parole, vous qui êtes mort à ces vieux maris, vous êtes né de nouveau. N'essayez pas de le déterrer, il est mort. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui avait été prédestiné à être en vous, c'est parole sur parole sur parole sur parole sur parole, jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est vrai, pour qu'il puisse venir chercher son épouse. Maintenant, nous sommes prêts pour une seule chose, la venue du Seigneur. Voilà votre nom dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole est Dieu, et Dieu seul est la vie. Alors, votre nom a été représenté dans la Bible, avant que la Bible soit en parole. Et si vous êtes ici pour accomplir cela, n'est-ce pas qu'elle va confirmer cette parole? N'est-ce pas que l'Église va confirmer ce qu'elle-même elle est? N'est-ce pas que Malachie 4 et toutes ces autres choses vont se confirmer parfaitement, parfaitement, et montrer que c'est bien de cela qu'il s'agit? Quand Jésus est venu, il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres qu'il a été promis que je ferai, ne me croyez pas. » À quel groupe a-t-il adhéré? Il a dit, « Ils ont tous, vous avez pour père le diable, et vous faites ses œuvres. » Voyez, voyez, nous sommes dans les derniers jours, Église. C'est mon message d'action de grâce pour vous. Maintenant, avant de terminer, une fois, je suis allé au parc national glacier. Nous avions entendu dire toute la journée qu'il allait y avoir une cascade, un glacier de feu, qui allait descendre ce soir-là. Alors, les gens se sont affairés toute la journée à préparer ça, parce qu'ils allaient faire couler ce feu ce soir-là. Ils mettent un genre de feu liquide, ça descend comme un grand glacier d'eau. Mais c'est, on dirait presque un arc-en-ciel là, qui sort de ce feu qui descend de ce glacier. Nous avons circulé dans le parc, ma femme et moi, et les enfants, nous nous sommes promenés à pied toute la journée. Nous voulions rester pour voir ce spectacle, ce feu. Alors, on nous avait promis que nous le verrions, que cette fois encore, nous pourrions assister à ça. On nous disait que c'est une attraction qui se répète tous les étés et tout. J'ai dit, « Eh bien, est-ce que nous pourrons le voir ?» Ils ont dit, « Nous l'avons promis pour ce soir. On nous le promet. » Ils ont dit, « Ils sont maintenant là-haut en train de préparer ça. » Après que tout a été préparé pour l'événement, c'est ce qui se passe en ce moment. Tout a été préparé pour l'événement. Une église qu'il fait sortir à cause de son nom. Il fait sortir son épouse du milieu de ce monde, de ses dénominations, de tout ce qui est du monde, de la souillure et des choses du monde. Tous les gens, l'événement a été préparé. Tous les gens étaient debout dehors. On nous a dit, maintenant, observez bien, juste au sommet de la montagne, là-bas. C'est toujours comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que cela doit arriver cette fois-ci. C'est toujours comme ça que c'est arrivé. Pas par une dénomination. Dieu n'a jamais utilisé une dénomination. Jamais. Le réformateur arrive. Il reçoit la parole du Seigneur. Ensuite, à sa mort, ils construisent une dénomination là-dessus. C'est ce que les pentecôtistes et tous les autres ont fait. Quand il y a eu ceux de la nouvelle question et tout, c'est justement comme ça. C'est comme ça que cette chose-là est apparue. Une nouvelle parole est ajoutée. Puis ils construisent une église là-dessus. Ils en ont fait une dénomination, se sont séparés. Il fallait que ça se passe comme ça. Or, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux que la nature. La nature suit toujours le même processus. La tige, la feuille, l'aigrette et ainsi de suite. La balle, puis vient le blé. Maintenant, remarquez, tout était prêt. Tout avait été allumé et préparé. Et tous les gens étaient debout dehors. Je levais la tête, mon bras passé autour des épaules de ma femme. Nous regardions. Les enfants étaient là. Nous regardions tous en haut, comme ça. Oh, c'était vraiment quelque chose. Parce que nous attendions ça. On nous l'avait promis. Amen. La parole promet ceci. Alors, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Alors, dans les derniers jours, je répandrai dans mon esprit. La pluie de la première et de l'arrière-saison tomberont ensemble dans les derniers jours. Toutes ces promesses ont été données dans les Écritures. Nous regardons en haut. Nous observons la véritable épouse disséminée dans le pays en cette heure. Elle regarde en haut. Église, il va venir un de ces jours. Oh, c'est sûr qu'il est venu la première fois. Il va revenir. Préparez tout. Séparez-vous de la balle. Restez dans la présence du Fils. Continuez à regarder en haut. Soyez dans l'expectative. Tout à coup, nous avons entendu quelque chose qui venait du sommet de la colline. Une voix a retenti dans le haut-parleur. Tout est prêt! Alors cet homme qui était debout à côté de moi a dit, « Que le feu descende !» Et voilà, ça s'est mis à dévaler la montagne, un glacier de feu et de flammes. C'était impressionnant à voir. Frère, préparons tout, car un de ces jours, le feu va descendre. Nous allons monter. Maintenant, préparons-nous pour le moment où le feu descendra. Nous sommes dans les derniers jours, nous le savons tous, et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Ce qu'il faut faire, c'est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est de ce monde. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Que personne ne vous séduise par son credo. Tenez-vous-en strictement à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu. Et cette parole, si c'est une parole qui s'applique à aujourd'hui, Dieu la confirmera. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour aujourd'hui. La parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. Non, monsieur. Celle-là, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci, c'est pour l'épouse, le départ de l'épouse, qui rentre à la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes, là encore, ils ont représenté ça. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que là, la parole de Noé n'aurait marché du temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse n'aurait marché du temps de Paul, ici. Il a essayé de le leur dire. « Vous êtes morts à ça, et vous ne pouvez pas avoir ça. Église, vous à qui je parle ce soir, d'un bout à l'autre du pays, si vous vous êtes séparés des dénominations, de toute la souillure et de toutes les choses de ce monde, et de toutes les choses qui vous retiennent dans les credos faits de main d'homme, les ordonnances et les choses semblables, si vous vous êtes séparés, regardez en haut, préparez-vous, le feu va descendre un de ces jours. » Dieu va le faire venir, et ce sera impressionnant à voir. Serez-vous prêt lorsqu'il viendra? Serez-vous prêt pour monter avec lui lorsqu'il viendra? L'enlèvement secret de l'épouse surnaturelle. Elle passera du mortel à l'immortalité. Elle sera changée en un instant, en un clin d'œil. Nous, les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. L'autre jour, c'était l'armistice, et j'étais à Tucson. Mon petit garçon voulait aller voir le défilé. J'étais en train d'étudier, et je n'avais pas le temps d'y aller. J'avais beaucoup de visites de malades à faire, et tout ça. Donc, il m'a dit, « Papa, ils ne veulent pas m'y emmener. » Il a dit, « Emmène-moi. » J'ai dit, « Très bien. Frère Simpson, je crois qu'il est ici. » Et son petit garçon voulait y aller. Hop, je les ai fait monter dans la voiture, et j'y suis allé en vitesse. Je me suis placé à un coin de rue pour regarder. Au bout d'un moment, j'ai entendu au loin un bruit sourd qui se rapprochait. Boum, boum, le battement des tambours. Je me tenais là. Je me suis dit, eh bien, ces petits garçons, vraiment, ils ont lu tous ces livres sur l'armée. Ils vont vraiment aimer ça. J'ai remarqué ce qui venait d'abord. C'était le vieux tank de la Première Guerre mondiale. Ils sont passés. C'était de tout petits engins, comme ça. Ensuite, ce qui a suivi, c'était le nouveau gros tank de la Deuxième Guerre mondiale, le gros tank Sherman, avec sa bouche à feu. Et ainsi de suite, l'un après l'autre. Et au bout d'un moment, il y a eu les Gold Star Mothers. Et puis, un peu plus tard, 12 vétérans de la Première Guerre mondiale, les seuls de tout l'État de l'Arizona qui soient encore en vie. 12 vétérans. Puis, un char est passé, le soldat inconnu, avec la petite croix blanche. Il y avait un marin, un fusilier marin et un soldat qui montaient la garde. Une petite cloison avait été élevée sur le char. De l'autre côté de celle-ci, il y avait une vieille mère aux cheveux gris, assise là, une étoile dorée, épinglée sur son corsage, une mignonne petite épouse, en larmes, son mari était mort, un petit garçon en haillons qui détournait la tête, son papa s'était fait tuer. Et derrière celui-là, il en est venu encore, et encore, et encore. Et ensuite, il y a eu l'armée moderne. Je me suis tenu là. Quel spectacle impressionnant, mais combien triste. Je me suis dit, oh Dieu, un de ces jours, je contemplerai un autre spectacle. Il viendra un jour de résurrection, et alors, les premiers seront les derniers seront les premiers. Les vieux prophètes apparaîtront les premiers, et on verra cette procession s'élever, marcher vers les cieux. Et nous, les vivants, qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous nous alignerons derrière eux pour rentrer, alléluia, tous ceux qui, au long de l'âge de Luther, de Wesley, des méthodistes, des presbytériens, et ainsi de suite, jusqu'au dernier âge, ceux qui ont reçu la parole de leur âge. Que Dieu vous bénisse, faites tous les préparatifs, et le feu descendra. Inclinons la tête un instant. Je me demande si, dans cet auditoire visible ce soir, alors que je vous ai gardé ici pendant jusqu'à 21h30, est-ce qu'il y en aurait un ici? Est-ce qu'il y en aurait une douzaine ici? Combien y a-t-il de gens ici qui diraient, « Frère Branham, j'ai honte de moi, de la vie que j'ai menée. J'ai beaucoup courbé les chines devant une dénomination et devant des hommes. Je sais que je ne suis pas au point avec la parole de Dieu. Je vous demande simplement de prier pour moi, frère Branham. Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regardez un peu, tout en haut, dans les balcons et partout. Que Dieu vous bénisse. Je sais, n'ayez pas honte, là. N'ayez pas honte. Et là-bas, d'un bout à l'autre du pays, de New York jusqu'à la Californie, du Canada jusqu'au Mexique. Vous qui êtes réunis dans ces églises ou de petits groupes de fidèles, croient à ce message de tout leur cœur. Ils sont sortis de grandes tribulations, sortis de ces dénominations. Ils sont des germes de vie. Est-ce que vous éprouvez un vif désir ce soir, comme le petit aigle? Vous entendez quelque chose qui est un peu différent de ce que vous avez entendu avant. Mais pourtant, dans votre cœur, vous savez que c'est la vérité. Vous qui êtes là-bas, il y a un pasteur quelque part, là-bas. Vous avez levé la main, je vais prier pour vous. Ces choses n'ont pas été faites en cachette, mes amis. Souvenez-vous, étroite est la porte, et resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront. Ne suivez pas cette foule qui se dirige là-bas, mes amis. Cet âge de l'église de Laodicée, elle peut sauter, danser sous l'effet de la musique. Elle est tiède. Or, il n'est pas dit qu'elle était glacée. Il est dit qu'elle était tiède. C'est l'église pentecôtiste. Et elle ne sait pas qu'elle est misérable, malheureuse, aveugle. Aveugle à quoi? À la parole, à la manifestation de la parole, parce qu'elle n'est jamais venue par l'entremise de leurs organisations. Elles ne peuvent pas la recevoir. Et vous, les ministres, qui êtes à Tucson ce soir, je ne vous tiens pas pour responsable de ça. C'est Dieu qui le fait. J'ai été là-bas pendant 3 ans. Je vous avais dit que je n'ouvrirais pas d'église. Je ne l'ai pas fait. C'est frère Peregrine qui en a ouvert une. J'ai été là-bas pendant 3 ans et vous ne m'avez pas invité une seule fois à votre chaire. Je suis resté à Tucson pendant presque 3 ans. Dieu va me retirer du désert un de ces jours. Ce message doit vivre. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me faire accepter parmi vous. Je sais pour quelle raison vous avez fait ça. Vous m'entendez? La seule raison pour laquelle vous avez fait ça, c'est parce que votre dénomination vous aurait mise à la porte. Et vous le savez, beaucoup d'entre vous, je vous ai parlé là-bas au restaurant Fur, et vous savez que c'est la vérité. Honte à vous. Sortez de là, frère. S'il y a un tant soit peu de vie en vous, vous serez comme ce petit aigle dont je viens de parler. Vous entendrez la parole de Dieu. Souvenez-vous, un de ces jours, vous entendrez ceci pour la dernière fois. Nous en sommes tout proches maintenant. Ne voulez-vous pas venir ce soir? Dieu bien-aimé, nous sommes rassemblés solennellement maintenant, et c'est vraiment un jour d'action de grâce, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ce jour. C'est le jour le plus glorieux. Paul, l'apôtre, désirait ardemment voir ce jour. Les grands hommes d'antan désiraient ardemment le voir. Les prophètes désiraient ardemment le voir. Ils attendaient ce jour. Abraham attendait ce jour, car il cherchait une ville dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Elle se trouve juste au-dessus de nous ce soir. Jean a vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel. Il en a rendu témoignage. Il savait que c'était là le Fils de Dieu. Et pensez, maintenant, il est en train de choisir son épouse. Dieu bien-aimé, partout dans le pays, parle à leur cœur. Tu es le seul qui puisse changer leur cœur. S'il n'y a pas eu de semence placée à l'intérieur dès le commencement, ils ne verront jamais ce qu'il en est, Seigneur. Ils, tout simplement, les aveugles conduiront les aveugles. Ils tomberont dans une fosse, aussi sûr que 2 et 2 font 4, parce que ta parole le dit. Maintenant, Père, alors que nous voyons d'un bout à l'autre du pays, dans le monde entier, en Afrique, des douzaines, partout, en Afrique du Sud, au Mozambique, partout dans le pays, de petites assemblées qui reçoivent ces bandes. Et cette bande aussi, elle ira dans une 20aine de pays différents. Ils commencent à voir ce qu'il en est, et ils se séparent, des centaines et des centaines d'entre eux. Ce ne sera pas un grand nombre, Seigneur. Et alors, quand le dernier membre aura été reçu dans le corps, Christ viendra. Seigneur Dieu, je demande à l'épouse ce soir, à ceux dont j'ai l'impression qu'ils se sont séparés et qui attendent, puissent-ils se séparer de tout ce qui est du monde. Ils doivent rester dans la présence de la lumière chaude du Fils de Dieu, baignés dans sa parole, dans son amour. Accorde-le, Dieu bien-aimé. Que les gens qui sont ici, visibles, qui ont levé la main ce soir, des douzaines dans tout ce grand tabernacle, je prie, ô Dieu, qu'une vie nouvelle entre en eux. Cette prière, je la fais pour ceux qui sont d'un bout à l'autre du pays, et même partout dans le monde, là où on passera cette bande, afin qu'eux aussi reçoivent ce message d'action de grâce, et qu'ils sachent, par les allusions qui ont été faites et tout, ce qu'ils doivent faire. C'est ma prière, Père, accorde-le, bénis-les. Ils sont à toi. Maintenant, je sais que ce qui se fait d'habitude, Père, c'est qu'on demande aux gens de venir à l'autel. Je prie, Dieu bien-aimé, que dans chaque mission, un peu partout, et dans le monde entier, qu'ils viennent à l'autel. Les noirs, les blancs, les jaunes, les bruns, où qu'ils se trouvent, les riches, les pauvres, les indifférents, les mendiants, quoi qu'ils soient, ceux qui font partie de dénominations, ceux qui suivent leur propre conception et sont centrés sur eux-mêmes. Ô Dieu, nus, misérables, malheureux, aveugles, et ils ne le savent même pas. Tu as dit qu'il en serait ainsi, et il en est ainsi. Alors, je te prie, Père, d'appeler chaque semence ce soir, et tout autour du monde, partout où ceci pourra se retrouver, puisse-la atteindre ce petit aigle qui connaît la voix de son Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Je te les confie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, avec vos têtes inclinées, ici dans l'auditoire visible, est-ce que quelques-uns de ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas même donné leur cœur à Dieu, vous ne trouvez pas que vous devriez être reconnaissant de ce que Jésus a fait pour vous? De penser que vous êtes un pécheur, que vous êtes détaché de Dieu, mais que quelque chose a quand même frappé à votre cœur. Qui sait si vous n'êtes pas l'un de ces petits aigles? Vous êtes misérable et vous serez misérable tant que vous ne vous abandonnerez pas à lui. Pourquoi ne pas faire de ce jour d'action de grâce l'un des plus grands que vous ayez jamais su, celui où vous aurez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur? Voulez-vous venir vous placer ici près de l'autel? Je prierai avec vous. Si vous venez, tout pécheur, homme ou femme, garçon ou fille, membre d'église ou non membre d'église, d'être un membre d'église, ça ne fait pas de vous un chrétien, ça. L'autel est ouvert à tous. Voulez-vous venir? Tout pécheur qui désire venir recevoir le Seigneur Jésus-Christ, vous qui aimeriez vraiment cesser, certains d'entre vous, des dénominations, qui aimeriez cesser de vous nourrir de cette nourriture pour poulet, où on vous dit que vous faites partie de ceci, alors tout va bien. Voulez-vous vraiment savoir ce qu'est le véritable baptême du Saint-Esprit? Venez voir. L'autel est ouvert à tous. Nous sommes prêts. Venez, avancez-vous. Quittez votre siège. Avancez-vous. Venez vous agenouiller ici à l'autel. il y a ce frère qui vient d'arriver. Quelle action de grâce, ô Dieu, je te suis si reconnaissant. Alors que toute ma vie, j'ai su qu'il y avait quelque chose, Seigneur. Je n'ai jamais été satisfait. J'ai essayé. Je me disais, l'an prochain, je le ferai. La semaine prochaine, je le ferai. La prochaine fois que j'entendrai un appel à l'autel, je le ferai un jour. Je remettais toujours ça à plus tard. Mais, Seigneur, je sais que quelque chose ne va pas chez moi. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de différent. Et maintenant, Seigneur, ce soir, je suis reconnaissant de ce que le Fils de Dieu est pourvu, afin que je sois lavé de mes péchés, de mon incrédulité, en fait. Je viens ce soir et je m'agenouille pour accepter la grande bénédiction d'action de grâce, ce que Jésus-Christ a fait pour moi, quand il est mort pour moi au calvaire. Voulez-vous venir? Maintenant, il y a des gens agenouillés autour de l'autel, ici. Pourquoi ne pas vous lever et venir? Vous avez désiré le faire. Vous avez essayé. Pensez simplement à frère Lyle Palmer, notre bon et précieux frère. Il était dans sa cour, d'après ce que j'ai compris. Il regardait sa petite fille qui jouait au croquet, ou quelque chose comme ça. Et il est tombé raide mort dans son fauteuil. Vous ne savez pas à quel moment vous allez partir d'ici. Vous ne savez pas du tout à quel moment vous allez partir. Ce pourrait être encore ce soir. Alors, pourquoi ne pas venir régler la question maintenant? Venez, les amis. Est-ce que vous ne vous sentez pas attiré par quelque chose? Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui devraient être ici à l'autel. Les 6 ou 7 personnes qui sont ici ne sont pas les seules qu'il y ait dans cet auditoire. Maintenant, si vous me croyez et que vous avez vu des choses arriver ici sur l'estrade, croyez-moi maintenant. Un jour, ma voix se taira. Vous ne l'entendrez plus. Peut-être souhaiterez-vous être venu. Vous dites, « Mais, frère Branham, j'ai été un membre d'église. Ce que vous avez été, ça ne change rien, ça. » Nicodème aussi, il avait été un membre d'église. Jean, Pierre, Jacques, Paul et tous les autres aussi, ils avaient été des membres d'église. Paul était un membre d'église jusqu'à ce que quelque chose arrive, un soir, ou plutôt un jour, alors il est venu. Il a été changé d'un membre d'église qu'il était en un fils de Dieu. Ne voulez-vous pas venir? Oh, il avait reçu une bonne formation. C'était un intellectuel. Il savait qu'il avait reçu une bonne formation. Il avait été formé à l'une des meilleures écoles de l'époque, par Gamaliel, l'un des meilleurs docteurs du pays. Mais il savait qu'il avait besoin de quelque chose. Ne voulez-vous pas venir? Encore une fois, je vous le demande. Ou, que ce soit ici ou n'importe où dans le pays, je vous le demande. Où que vous soyez, et quelle que soit l'assemblée dans laquelle vous êtes, à cette heure d'action de grâce. Souvenez-vous qu'on m'enregistre ici, non seulement ici, mais au ciel. Vous savez, il a été prouvé par la science que chaque mouvement que vous faites est enregistré. On a prouvé ça. Souvenez-vous, la télévision l'a prouvé. La télévision ne fabrique pas d'image. C'est vous qui êtes l'image. Elle ne fait que transmettre dans un canal ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes là, de toute manière. Voyez, quand vous bougez le doigt, ce mouvement fait le tour du monde. Chaque fois que vous mettez une robe, votre apparence fait le tour du monde. C'est enregistré. Chaque pensée qui traverse votre esprit est enregistrée. Et un jour, l'enregistrement prendra fin. Il sera mis dans l'album. Et puis, au jugement, il sera repassé. Vous voilà, les cheveux coupés, vous prétendant chrétienne. Vous voilà, avec dans votre esprit des pensées contre la parole. Et c'est là, dans votre esprit. Vous ne pouvez pas le cacher. Souvenez-vous, la télévision, même la science sait que c'est vrai. Maintenant même, vous le savez, que vous devriez être ici. Souvenez-vous, alors que ceci est enregistré, au jour du jugement, cette même pensée que vous avez maintenant vous reviendra à l'esprit de nouveau. C'est ce qui aura été enregistré. Le monde entier le verra quand ce sera repassé. Pourquoi est-ce que le monde ne... On vous regardera au jour du jugement et tous les anges seront là. Si vous avez honte de moi ici, alors que maintenant même votre image est en train de s'enregistrer, au jour du jugement, j'aurai honte de vous. Car j'ai oint ma parole. Je vous l'ai envoyée. Vous n'avez pas voulu la croire. Vous vous êtes caché derrière quelque chose. Oh, vous dites, je suis une assez bonne personne. J'ai fait ceci. J'ai dansé par l'esprit. J'ai parlé en langue. Les païens aussi font ça. J'ai poussé des cris. Les païens aussi font ça. Alors, comment pouvez-vous vous détourner de la parole?
Why not come to him now? Why not? do you wait, dear brother? Oh, why do you tarry so long? Jesus is waiting to save you. A place in his sanctified throne. But you're one of the members of his body.
Faire de toi un membre de son corps. Pourquoi, ô petit aigle, viens ? Oh, pourquoi ne pas venir ? Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Je t'adresse mes actions de grâce, Seigneur. Non pour la nourriture naturelle, bien que j'en sois quand même reconnaissant. Mais Seigneur, nous sommes au temps de la faim. Je suis reconnaissant de cette nourriture spirituelle, Seigneur, la nourriture spirituelle des sept seaux qui, selon la promesse, devaient être ouverts. Vous dites, ça, ce sera quelque chose d'autre. Non, non, on ne peut pas ajouter une seule parole, ni retrancher. C'est déjà là-dedans, mais c'est simplement caché. C'est scellé. Combien comprennent ça? Dites Amen. Voyez, vous dites, eh bien ça, ce sera un mystère qui sera proclamé. Oh non, c'est déjà écrit. On ne peut pas y ajouter une seule parole, ni en retrancher une seule. Voyez, c'est déjà là-dedans. Il faut simplement que ce soit révélé dans les derniers jours. Ne voulez-vous pas venir? Venez donc maintenant, mes amis. Si vous ne comprenez pas, venez, agenouillez-vous et parlez-lui en. Si je ne peux pas rendre la chose claire pour vous, lui, il le fera. Car c'est lui qui dissipe tous les doutes. Souvenez-vous, on est en train d'enregistrer ceci, non seulement sur cette bande magnétique, mais sur le grand enregistrement de Dieu. Chacun de vous, chaque mouvement, que vous inclinez la tête, que vous inclinez votre cœur, la pensée qui traverse votre esprit, souvenez-vous, c'est enregistré maintenant même dans la gloire, et l'enregistrement sera passé au jour du jugement. Où est votre décision? Oh, combien vous voudrez vous raviser ce jour-là? Je vais encore attendre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de l'autel maintenant. Voyez, peut-être qu'il y en a encore un, que si j'attends encore un peu, il se peut qu'il y en ait encore un là-bas, peut-être quelque part à New York, peut-être quelque part à Philadelphie, ou en Californie, en Arizona, quelque part, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait encore venir. Pasteur, où que vous soyez, ne mettez pas fin à l'appel à l'autel maintenant. Il se peut que nous ne voyons pas un autre jour d'action de grâce. Celui-ci pourrait être le dernier. Alors, les enregistrements seront classés ce soir, pour la dernière fois. Un de ces jours, la bande magnétique arrivera au bout. L'enregistrement aura été gravé et placé dans l'album de Dieu. Ensuite, il sera repassé. Les pensées que vous avez en ce moment, n'allez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous l'êtes. Mais nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés, ils viendront. Venir à lui? Je crois que si moi, j'étais assis là, quelque part, et que la moindre pensée me vienne de le faire, je m'avancerai à toute vitesse, ça c'est sûr. Oui. Est-ce bien définitif pour vous? Êtes-vous sûr que vous n'attristez pas son esprit en ce moment? Alors, gardons la tête inclinée. Êtes-vous sûr de ne pas avoir attristé son esprit? Êtes-vous sûr d'avoir fait exactement ce qu'il vous disait de faire? En êtes-vous certain, là? Souvenez-vous, vous n'en aurez peut-être plus jamais l'occasion. L'enregistrement pourrait se terminer ce soir. C'est peut-être tout. C'est peut-être la dernière bande enregistrée pour vous. Êtes-vous sûr que vous êtes prêt maintenant? Si oui, je laisse la chose entre vos mains au nom du Seigneur Jésus. Pendant que la chorale chante doucement, je vais prier pour ceux qui sont ici. Je suis un chrétien d'un genre assez particulier. Je crois que c'est Dieu qui doit sauver les gens. Je crois que c'est Dieu qui doit planter la parole. Moi, l'Éternel, c'est ce que dit la Bible dans Ésaïe, moi, l'Éternel, je l'ai plantée, je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de ma main. Avant de demander à quelqu'un de venir à l'autel vers ces gens, je veux moi-même prier pour eux. Inclinons la tête maintenant. Cher Jésus, j'ai simplement cité ta parole, ce que ton prophète a dit. Et je sais que les paroles des prophètes sont vraies. Et tu as dit, « Moi, l'Éternel, je l'ai planté. » Bien sûr, puisque tu l'as mise dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. « Moi, l'Éternel, je l'ai planté, et je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de ma main. » Ceux-ci, Seigneur, ont probablement entendu de nombreux appels à l'autel, mais tu continues à l'arroser, Seigneur. Les voici ce soir. Puissent-ils simplement se détacher ce soir, Père, de toutes les choses du monde, de tous les péchés et de tous les soucis qu'ils ont dans le cœur, et tout simplement, avec leur bon sens et avec respect, que du fond du cœur, ils s'abandonnent à ta parole, maintenant même, en disant, « Seigneur Jésus, au fond de mon cœur, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose pour moi que je n'avais pas encore reçu. » Bien que j'ai essayé, comme cela a été exprimé ce soir, de suivre la poule, mais il y avait quelque chose qui me semblait bizarre. Ça ne sonnait pas juste. Et ce soir, je sens que je viens maintenant plus près, dans les bras de la parole vivante. Je viens ici avec beaucoup de respect, avec mon bon sens. Je me suis agenouillé ici, près de cet autel. Je désire tellement le salut, Seigneur. Je suis si affamé. Je désire, Seigneur, que tu me tiennes dans tes bras ce soir, non pas par une émotion, mais par l'esprit d'amour. Prends-moi dans tes bras, Dieu bien-aimé. Je suis ton enfant. Je sens que je suis cet aigle dont on parlait. Attrape-moi, Seigneur. Je saute. Je me suis levé de mon siège et je me suis agenouillé ici. Attrape-moi, Seigneur. Je saute. Emmène-moi sur tes ailes, Seigneur, loin des choses du monde. Que je m'envole loin de la souillure de ce monde, de mes mauvaises habitudes, de toutes mes traditions dénominationnelles. Que je vienne à toi seul, Dieu bien-aimé, pour que ton Saint-Esprit puisse répandre en moi le pardon de tous mes doutes. Que ce soir, je devienne ton enfant, nouvellement né, une nouvelle créature ce soir. Attrape-moi, emporte-moi loin du caquetage des poules, emporte-moi au loin, jusqu'au nid de l'aigle, là où je pourrai être nourri de la parole de Dieu, jusqu'à ce que je sache voler. Accorde-le, Dieu bien-aimé, prends-les, ils sont à toi. C'est là la prière que j'adresse avec sincérité, pour des gens qui se meurent. Accorde-le, Père, je t'adresse cette prière en leur faveur. C'est pour la gloire de Dieu que je le demande. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je me demande, ceux qui se sont agenouillés ici autour de l'autel, beaucoup d'entre vous ont prétendu être chrétiens, mais vous sentiez qu'il y avait toujours quelque chose, quelque part, que vous ne possédiez pas. Vous avez peut-être accompli tous les actes religieux, vous avez peut-être crié, vous avez peut-être tout fait, vous avez peut-être dansé par l'esprit, vous avez peut-être parlé en langue, et personne ne peut rien dire contre ça. C'est vrai, tout ça, c'est bien, mais vous voyez, ça, ce sont des dons de l'esprit. Sans l'Esprit. Si l'Esprit était là, ce sentiment ne serait pas là, ce sentiment de culpabilité. Croyez-vous réellement, sincèrement, alors que vous êtes ici à l'autel, que maintenant même, pendant que vous êtes ici, par le simple fait que vous vous êtes détaché, non pas par une émotion là, mais avec une foi véritable et sans mélange, que Dieu vous recevra et vous nourrira de sa parole, jusqu'à ce que vous soyez vous-même des aigles et puissiez voler? Si c'est le cas, et que vous désirez que Dieu le fasse, levez la main, vous qui êtes autour de l'autel. Que Dieu vous bénisse. Chacun a levé la main. Maintenant, très doucement, je vais demander à des hommes et à des femmes consacrés qui connaissent vraiment Dieu. La plupart, et c'est très étrange, mais on dirait que c'est comme ça. Ceux qui répondent aux appels à l'autel que je fais, en général, pour la plupart, ce sont des hommes. Vous savez, en règle générale, d'habitude, ce sont des femmes. Mais ici, ce sont tous des hommes. Je crois qu'il n'y a qu'une femme à l'autel ce soir, peut-être deux. D'habitude, ce sont des femmes. Mais pour une raison ou pour une autre, j'ai l'impression que les femmes pensent que je parle contre elles. Non, ma sœur. Trois. Je crois que quelqu'un a dit qu'il en voit trois. Je ne vois pas par-dessus l'autel ici. Très bien. que quelques chrétiens consacrés parmi vous viennent ici, priez avec moi pendant un instant. À l'autel, où que vous soyez, sur l'estrade, quelqu'un qui connaît vraiment Dieu, qui sait comment rester ici en prière avec eux pendant quelques minutes, puis nous laisserons partir les gens. Que chacun soit vraiment respectueux maintenant. Ne partez pas. Venez vous placer ici tout autour. Quelques-uns parmi vous qui croient vraiment que ceci est la vérité, que nous entrons dans un autre âge, nous entrons dans l'âge de l'enlèvement. Vous savez, l'Église ne peut pas partir dans l'état où elle est, et ça ne peut pas s'améliorer, ça ne peut qu'empirer. Combien le savent? Dites Amen. Ça ne peut qu'empirer, et elle ne peut pas partir comme ça. Voyez, il faut qu'il y ait quelque chose, et c'est en train de se mettre en mouvement, mes amis. C'est enclenché. Le mouvement est enclenché pour l'épouse. C'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Avancez-vous maintenant, chrétiens consacrés, qui désirez que votre enregistrement laisse voir que ces gens qui sont venus avec sincérité, vous désirez venir prier avec eux, car ils sont vos frères et sœurs. Avancez-vous autour de l'autel. Venez vous placer ici un petit instant pour prier. Quelqu'un d'autre voudrait-il venir se placer ici? Agenouillez-vous simplement près d'eux. Allez vers eux. Vous les hommes, près de ces hommes. Vous les femmes, doucement, humblement, priez pour eux. Dieu bien-aimé, aide. Je renonce à tout. Je renonce à ma dénomination. Je renonce à mon premier mariage. Je renonce à mon premier mari. Je renonce à tout, Seigneur. Est-ce que vous abandonnez vos propres idées? Pouvez-vous abandonner vos propres idées à la parole de Dieu? Tous ceux qui croient maintenant dans l'auditoire, levez-vous, chantons-le ensemble maintenant. Maintenant, vous qui êtes autour de l'autel, si vraiment vous vous abandonnez, levez la main vers lui et chantez « J'abandonne tout ». J'abandonne les dénominations. J'abandonne les dénominations. J'abandonne les églises. Je m'abandonne moi-même. J'abandonne mes idées. Tout à toi, mon Sauveur béni. J'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne. Your eyes are red. vous qui êtes ici à l'autel, vous qui êtes ici autour de l'autel, qui avez prié, l'Église a prié pour vous, vous avez vous-même prié. Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen par lequel vous puissiez être sauvé, et c'est par la foi que vous êtes sauvé, et ce, par la grâce. La grâce de Dieu vous a parlé, vous a conduit à l'autel. Vous recherchez les bénédictions de Dieu. Vous recherchez sa parole. Vous recherchez le Saint-Esprit. Vous recherchez les faveurs de Dieu. Si c'est le cas, et que vous pouvez vraiment, de tout votre cœur, abandonner tout. Maintenant, ne cherchez pas une émotion. Cherchez une vérité du fond du cœur, par la foi. Seigneur, je suis prêt à faire tout ce que ta parole m'ordonne de faire. Je m'abandonne avec tout ce qui est en moi. Si vous croyez ça de tout votre cœur, je veux que vous vous leviez, que vous vous tourniez vers cette église, vers l'auditoire, et que vous leviez les mains, et nous allons le chanter ensemble avec l'auditoire. J'abandonne tout ce qui est en moi, ô Dieu, pour autant que je le sache, tout ce que je suis, je l'abandonne. Montez sur l'estrade ici, vous qui êtes à l'autel, montez ici, sur l'estrade, frères, juste ici, vous tous, frères et sœurs. Regardez ici, Église. Vous vous abandonnez? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous vous abandonnez complètement à lui et à sa parole? Une sœur ici qui vient d'une dénomination, elle a dit, « Je fais partie d'une dénomination. Ce n'est pas nécessaire d'en donner le nom. Elle y est active. » Mais elle a dit, « Frère Branham, je désire aller vers la vérité. Je désire quelque chose de plus profond que ça. » Voyez? Laissez-moi citer sa parole. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, vous qui venez d'arriver sur l'estrade, si vous êtes prêts à abandonner tout ce que vous êtes, tout pour obéir à la parole de Dieu, cette semaine, personne ne vous a dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, si vous êtes prêts à vous abandonner à lui maintenant, levez simplement les mains comme ceci, face à l'auditoire. Maintenant, vous qui êtes ici, sur l'estrade, chantons-le ensemble maintenant. Oui, prends tout, Seigneur, tous ensemble, très bien. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Dites « Amen ». Dites « Amen » encore une fois. Dites « Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, donne-moi une occasion. C'est tout ce que je pouvais faire ce soir. Me donner à toi. Tu connais la faim de mon cœur. Tu connais mon désir. Ta promesse, c'était de combler ce désir. Maintenant, je l'accepte et je m'abandonne à toi, tous ensemble. Alléluia.